السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل وبياكم، ومرحبا بكم et bienvenue à tout le monde dans la salle بإذن الله سبحانه وتعالى. Nous sommes ce soir mercredi 11 Jumada الثانية 1428, c'est-à-dire le 27 juin 2007 بإذن الله عز وجل. Normalement, le cours d'aujourd'hui doit être pas en Europe, mais en Islam. Ça, Islam, ensuite la salle. Non, religion, Islam, ensuite la salle. Mais ces jours-ci, ces deux derniers jours, trois derniers jours, ils sont en train de faire une mise à jour. Ils sont en train de faire une mise à jour au palto. C'est pour ça que celui qui a une salle, il ne peut pas changer, il ne peut pas rentrer et changer. C'est pour ça que je n'ai pas pu rentrer pour mettre la salle aujourd'hui en islam. C'est pour ça que on va la faire aujourd'hui ici, jusqu'à Inch'Allah Ta'ala, à ce qu'il fasse la mise à jour. C'est pour ça que vous, ceux qui ont des âmes, etc., qu'ils mettent devant leur pseudo, devant le pseudo, dans la salle, dans votre salle, la liste, pardon, dans votre liste, vous mettez devant le pseudo, cours en Europe, comme ça, vos amis savent qu'on est dans cette salle bi'idhni azza wa jalla. Nous sommes dans le deuxième cours. Nous sommes au deuxième cours du livre, ce qui a rapport avec le mariage. On va réviser très vite avant de commencer le nouveau. Comme vous connaissez mon habitude, il faut d'abord que je révise très vite, ensuite pour commencer le nouveau. Je révise pourquoi ? Pour que les gens qui ont entendu quelque chose soient sûrs qu'ils l'ont bien entendu. Naam, ceux qui ont des doutes, etc., ils vérifient ses connaissances bi'idhnillah azza wa jalla. Et bien sûr, le mariage, ce livre, ou bien ces doros qui ont rapport avec le mariage, ce ne sont pas seulement pour ceux qui ne se sont pas mariés, mais même pour les mariés. Quelqu'un de marié, c'est possible qu'on lui pose des questions sur le mariage. Ensuite, avant cela, apprendre ces choses, c'est une adoration. Quand je reste et j'apprends des choses, même si c'est des choses, par exemple, sur le commerce, je ne suis pas commerçant, j'entends ce qu'a dit Allah Ta'ala sur le commerce, ce qu'a dit son prophète, alayhi salam, tout ça, ça agrandit ma science et c'est de l'adoration. Ensuite, tout le monde a besoin des choses qui ont rapport avec le mariage, car s'il n'est pas marié, mashallah, s'il est marié, c'est pour ses enfants, c'est pour ceux qui, les frères et les sœurs qui lui posent des questions, c'est pour... Et comme ça, naam. Donc, on a dit que kitab ou nikah, kitab ou nikah. Ça, on avait dit que nikah, en arabe, ça avait deux sens. Naam. Il y a des mots comme ça en arabe qui ont plusieurs sens, deux sens, trois sens et plus. Comme, par exemple, dans le Coran, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit thalathata qura, lorsqu'il a dit et employé le mot qura, c'est quoi qura? Est-ce que c'est les monstres ou bien la purification? Subhanallah, c'est les deux. Mais c'est d'après quoi? D'après le contexte. Le contexte. Où a été employé le mot? Naam. Donc, ici, c'est la même chose. Nikah, ça a deux sens. Ou bien le contrat de mariage, ou bien le rapport conjugal lui-même. Donc, on voit d'après le contexte. Je donne un exemple où c'est, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de quoi? De contrat de mariage. D'ailleurs, c'est ça la base. La base, quand on trouve le mot nikah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler du contrat de mariage. Sauf si on a quelque chose qui va nous montrer qu'il est, il parle ici du rapport conjugal. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكَحَ أَبَاءُكُمْ مِنْ نِسَى وَلَا تَنْكِحُ, il a employé le mot تَنْكِحُ, le verbe. Et j'ai dit que la base, c'est lorsqu'il y a le verbe نَكَحَ ou bien le mot نَكَح, la base, c'est toujours le contrat de mariage. Donc ici, il dit, yani, n'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Personne n'a le droit d'épouser la femme de son père, même si yani, il la divorce ou bien si le père meurt, il lui est toujours impossible yani, qu'il se marie avec l'une des femmes que son, qui, avec laquelle son père a contracté un mariage. Naam. Mais lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit حتى تنكح زوجا غيره, lorsqu'il a dit حتى تنكح زوجا غيره, ici il parlait d'autre chose, il parlait du rapport conjugal, c'est-à-dire qu'une femme, une femme, si jamais son mari la répudie pour la troisième fois, alors elle n'a jamais le droit de se, pardon, elle n'a jamais le droit, naam, de se marier, pardon, elle n'a jamais le droit de revenir au premier qui l'a déjà répudié trois fois, sauf si quoi? Sauf si elle se marie et encore plus, elle fait au moins un rapport conjugal avec le nouveau mari. Car j'ai dit la fois passée, une femme peut se marier avec quelqu'un et ne pas faire de rapport. Parce que ils disent on laisse après, ou bien elle, elle est malade, ou bien lui, elle est malade, mais elle est mariée. Dans ce cas, si elle ne fait aucun rapport et elle divorce, elle ne peut pas revenir vers son premier mari. La condition nécessaire, il faut qu'elle fasse au moins un rapport. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hatta tadouqi ghusaylatahu, et il a dit hatta yadouqa ghusaylataki, il faut qu'il goûte de cette chose et que tu goûtes toi de cette chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remarquez ici, il a employé le mot ghusayla, c'est le diminutif, c'est-à-dire de asal, l'asal, ghusayla, c'est-à-dire le petit miel, le petit miel. Pourquoi les ulama ont dit? Parce que comme le miel est sucré, la même chose quand quelqu'un fait un rapport avec sa femme dans le halal, il trouve bien sûr quelque chose de sucré. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas si j'ai dit, il est très malheureux que beaucoup d'hommes ne cherchent que leur plaisir, ne cherchent que leur plaisir, et ils ne patientent pas pour yani, que leurs épouses aussi aient le plaisir. Ah, dès qu'il termine son plaisir, il se lève et yani, il ne... comment vais-je dire, yani, il ne prend pas en considération subhanallah les sentiments des autres, et surtout les sentiments de son épouse. Et c'est pourquoi il y a plusieurs épouses qui se plaignent et qui disent, ça fait 3 ans ou 4 ans que je suis marié, je n'ai jamais rien ressenti. Subhanallah, c'est très grave pour les hommes et les époux qui yani, ne sont pas endurants et qui ne respectent pas les sentiments des autres. Naam. Ensuite, Tayyib, on a dit que... Et dans la sharia, c'est quoi le nikah dans la sharia? C'est an ya'qida 'ala imra'atin bi qasd al-istimta' biha wa husul walad. C'est qu'il fasse le contrat, l'acte de mariage avec la femme, dans le but de la jouissance et d'avoir aussi des enfants, et dans d'autres buts aussi. Donc la jouissance, se préserver. Pourquoi je me marie? Pour me préserver. Si je ne me marie pas, je risque de tomber dans la fitna. Naam. Et en même temps, ce n'est pas seulement pour la jouissance, mais encore pour avoir yani, des enfants et laisser après moi, masha'Allah, laisser après moi mon nom qui restera toujours. Mes enfants, ensuite les enfants de mes enfants, ensuite leurs enfants. Et comme ça, yani, laisser mon nom, masha'Allah. Naam. Ensuite, on a dit, wa huwa sunnah. وهو سنة الزواج ici يعني l'écrivain الحجاوي على رحمة الله a dit وهو سنة, c'est une tradition prophétique. نعم هذا هو الأصل في حكمه, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج, car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ô vous les jeunes, quiconque a la capacité de se marier qu'il se marie. Naam, quiconque a la capacité de se marier, qu'il se marie. Jazakallahu khairan, Abdillah. Comment qu'il, naam, aux jeunes gens, que celui qui a la capacité se marie. Que celui qui a la capacité, c'est-à-dire se marier, qu'il se marie. La capacité, c'est quoi? C'est matériellement, il a de quoi lui faire manger, de quoi lui acheter les habits nécessaires, il a où l'habiter, la faire habiter aussi, et la capacité physique. Il ne faut pas qu'il soit malade de façon, par exemple, à ce qu'il ne puisse pas yani, faire des rapports avec sa femme. Si c'est comme ça, il lui dit seulement, yani, ne cache pas. Si maintenant, les savants ont dit, si la femme accepte, elle est libre. Si la femme, on lui dit, voilà, ce prétendant ne peut pas faire de rapport. Il est malade dans ses parties intimes. Et elle dit, j'accepte. Celle-là, les ulama ont dit, ça ne fait rien. Le mariage est valable. Regardez la différence entre ce cas et le deuxième cas. Si on lui dit, ton prétendant, celui qui veut demander ta main, est un peu malade mental. Ici, son tuteur a le droit de dire non, j'accepte pas ce mariage, même si elle l'a accepté, elle a accepté sa maladie, et même si elle aime cette personne, le tuteur a le droit de dire non, je ne la marie pas avec cette personne. Pourquoi? Dans le premier cas, si elle accepte qu'il soit malade dans ses parties intimes et qu'il ne puisse pas faire des rapports, si elle accepte, le tuteur n'a pas le droit de refuser. Et dans le deuxième cas, s'il est malade mental, il a le droit de refuser. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, vous voyez la différence. C'est que dans le premier cas, c'est son droit. Naam, faire des rapports conjugaux, c'est son droit. Elle s'est désistée. Elle a dit, ça ne fait rien, j'accepte de ne pas faire de rapport et de ne pas avoir de jouissance, etc. C'est mon droit, je n'en veux pas. Donc le tuteur n'a rien à voir ici. Mais dans le deuxième cas, c'est quoi? C'est le fait qu'il soit malade, ça touche quoi? Ça touche pas la femme seulement, mais ça touche toute la famille. Naam, les gens vont parler, même au père de la fille, à sa mère, on va leur dire, vous avez marié votre fille avec quelqu'un malade mental, etc. Naam, ça veut dire, toute la famille va être lésée. Tandis que dans le premier cas, c'est elle seule qui est lésée, et si elle veut être lésée, eh ben elle est libre. Elle est libre, naam. Ensuite, il y a des versets ici où il est dit « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً » Que Allah subhanahu wa ta'ala a montré que même les prophètes se mariaient. Yani, c'est une sunna de qui? C'est une sunna des prophètes. Naam. Il n'y a pas un prophète peut-être qui n'a pas été envoyé sans qu'il se marie. Vous voyez ici « وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً » Donc, alhamdoulilah, celui qui se marie, il est en train de suivre la tradition des prophètes. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Des épouses, et pourquoi des épouses? Des descendants, ce que je disais tout à l'heure. Des descendants. Je meurs et je laisse une descendance. Naam, une descendance. Masha'Allah. Naam. Ensuite, parce que le mariage aussi contient beaucoup de bénéfices, beaucoup d'intérêts et beaucoup de bénéfices. Naam. Ensuite, il a dit « وَفِعْلُهُ مَعَ الشَّهْوَةِ أَفْضَلْ مِنْ نَوَافِ الْعِبَادَةِ وَيَجِبُ عَلَى مَنْ يَخَافُ زِنًا بِتَرْكِهِ » Le fait de se marier pour quelqu'un qui a des tentations, c'est mieux que de faire des adorations surérogatoires. Naam. Le fait de se marier pour quelqu'un qui a des tentations. Les gens ne sont pas tous pareils. Il y a des gens qui ont des tentations, il y en a qui n'en ont pas. Il y en a qui ont beaucoup de tentations. Il y en a qui ont des tentations mais sont faibles. On parle de quelqu'un qui a des tentations, celui-là, naam, et le faire par désir est mieux que les actes surérogatoires. Naam. Et il incombe à celui qui craint la fornication de ne pas le désirer. Mais si maintenant quelqu'un a peur que s'il ne se marie pas, il tombe dans l'adultère et dans la fornication, celui-là, s'il ne se marie pas, il va avoir des péchés. Non. Si quelqu'un sait que s'il ne se marie pas, il va alors faire l'illicite, alors celui-là, il aura des péchés pour ne pas s'être marié. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle qui dit quoi? مَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِتَرْكِهِ فَتَرْكُهُ وَاجِبُ وَمَا لَا يَتِمُّ تَرْكُ الْحَرَامِ إِلَّا بِفِعْلِهِ فِعْلُهُ وَاجِبُ وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ. Et comme ça. Donc ici, je ne peux m'éloigner de la zina je ne peux m'éloigner de la zina qu'en faisant le mariage, en me mariant. Donc le mariage est devenu obligatoire pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il est une solution pour ne pas faire le haram qui est la zina. Vous voyez ? Puisqu'une chose est devenue nécessaire pour ne pas faire la zina, je me marie. Donc le mariage ici est devenu quoi ? Est devenu obligatoire. Non. Et il est mieux que yani, les actes surérogatoires. Il est mieux que de jeûner le lundi et le jeudi, ou que d'aller faire un deuxième hajj, ou que d'aller faire une troisième omra. Il est mieux yani, de se marier. Non. Et on a dit, et il est obligatoire pour quelqu'un qui a peur de tomber dans la zina. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen a choisi l'avis qui dit qu'en général, le mariage est obligatoire. En général, il a dit, le mariage est obligatoire. Sauf, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, pour quelqu'un qui a des excuses. Pour un malade, etc., celui qui a des excuses. Ou bien il n'a pas l'argent pour la faire manger, pour dépenser pour elle. Non, dans ce cas, il n'est pas obligatoire. Non. On a montré aussi quand est-ce qu'il était makruh et quand est-ce qu'il est haram aussi. Le mariage lui-même peut être haram. Il peut être haram. Si je me marie, des fois j'ai des péchés. Quand est-ce, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, je me marie et je suis malade et je n'ai pas dit à la femme, je ne lui ai pas dit, non. Alors elle va souffrir avec moi. Elle va souffrir. Donc, c'est devenu, mon mariage est devenu illicite. J'ai des péchés pour m'être marié. Subhanallah. Je me suis marié, j'ai des péchés. Pourquoi ? J'ai menti et j'ai caché. C'est comme lorsque je vends une voiture et je cache qu'il y a un défaut dans la voiture. Imagine, ça c'est une voiture. Celle-là c'est une personne avec laquelle tu vas vivre peut-être 30 ans, peut-être 40 ans, peut-être 50 ans. Et tu as caché la chose la plus importante. L'une des choses les plus importantes, c'est yani, subhanallah al-azim, comment yani, les gens n'ont pas peur. Comment certains gens et beaucoup de gens n'ont pas peur. Non. Il a dit aussi, Tayyib, on a dit aussi que le mariage était interdit quand on est dans un pays, on est parti par exemple combattre, on est parti combattre les koufars. Dans leur pays, il n'est pas permis de se marier. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir une femme, tu vas avoir des enfants, tu es dans un pays où tu risques de mourir d'une seconde à l'autre, tu es en train de combattre. Alors comment se fait-il ? Tu vas laisser ta femme, c'est sûr qu'on va te la prendre, on va te prendre tes enfants, on va les faire entrer dans une autre religion, etc. C'est pour ça, dans un pays de Koufar, quand on fait la guerre, il est interdit de se marier là-bas. Quand on fait la guerre, bien sûr. Non. Ensuite, il a dit, wa yusannu nikahu wahidatin. Wa yusannu nikahu wahidatin. Il a dit, yani, il est préférable de se marier avec une seule. Avec une seule. Maintenant, le Hajjawi ala rahmatullah va citer, Naam, disons, quelles sont les choses conseillées ? Quelles sont les choses conseillées avec la femme ? Il va citer six choses, six qualités, disons. La première, il a dit, il est préférable d'en épouser une seule. Naam, il est préférable d'en épouser une seule. Ensuite, on a montré ici que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne se mariait pas par tentation, comme pensent beaucoup de gens. Ne se mariait pas par tentation, mais il se mariait pour des raisons beaucoup plus valables, hein, pour beaucoup d'autres raisons. Non. Et j'ai montré la fois passée comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est par exemple marié avec Safiya binti Huyay, quand il est allé combattre là-bas, et c'était une juive, son père juif est mort, ses frères, et elle est tombée prisonnière chez les musulmans, imaginez une juive prisonnière qui a perdu toute sa famille et maintenant elle a sûrement le cœur brisé. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec elle. Naam, s'est marié avec elle pour la réconforter, pour la seconder. Naam. Et c'est comme ça qu'il s'est marié avec Abu Bakr Siddiq. Il s'est marié avec sa fille Aïcha qui n'avait que 9 ans lorsqu'il a consommé le mariage. Pourquoi ? Parce qu'il voulait, disons, corroborer, consolider les relations avec lui et avec les futurs califes qui vont venir. Il savait que Abu Bakr et Omar allaient venir après lui. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. نعم, suivez ceux qui vont venir après moi. Il les a cités, Abu Bakr wa Omar, subhanallah al-azim. Donc il s'est marié avec la fille de Abu Bakr Siddiq et il a donné sa fille à qui? À Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Pardon, il a pris la fille de Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Il a pris Hafsa, il s'est marié avec elle. Ensuite, il a donné deux filles au troisième khalifa Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Umm Kulthum et Ruqiyya. Et subhanallah al-azim, et il a donné Fatima à qui? À Ali ibn Abi Talib, le quatrième khalif. Est-ce que c'est venu comme ça par hasard? C'est venu par hasard qu'il donne des filles à certains califs et qu'ils prennent une fille d'un autre calife? Non, c'est pas venu par hasard. Tout était calculé car il voulait consolider les relations. Donc il ne se mariait pas, comme disent les kuffars, etc., à cause des tentations. Et j'avais dit que le plus grand délire, c'est quoi? La plus grande preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait 25 ans, son premier mariage, il s'est marié avec une femme de 40 ans, déjà mariée avant lui deux fois. Naam. À 25 ans, il s'est marié, premier mariage, avec une femme qui a 40 ans, qui s'appelle Khadija bint Khuwaylid, mariée avant lui deux fois. Dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui a 25 ans, qui va se marier, son premier mariage, quelqu'un qui a les tentations, quelqu'un qui aime les plaisirs sexuels, et qui a 25 ans et qui va choisir une femme qui a 40 ans, déjà mariée deux fois avant lui. Oum Abdillah, est-ce qu'il y a le son? Ali Batouin dit qu'il n'y a pas de son. Oum Abdillah, est-ce qu'il y a le son? Taïb, j'arrête. Abou Mariam, il y a le son. Son, alhamdoulilah. Donc c'est Talib Batouin qui a des problèmes, je crois. Donc, alhamdoulilah. À 25 ans, il s'est marié avec une femme de 40 ans, mariée deux fois avant lui. Voilà le grand délil qui brise quoi? Brise le dos des kuffars et de ceux qui parlent sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit encore? Non. Le Cheikh Ibn Uthaymin, attendez une seconde, je cherche quelqu'un dans la liste ici. Non. Je disais, le Cheikh Ibn Uthaymin est de l'avis que de préférence on se marie avec combien? On se marie avec une seule. Il a choisi cet avis, il a dit parce que quand on se marie avec une seule, c'est-à-dire on ne va pas disperser la famille. Hein, on ne va pas disperser la famille, on a des enfants ici, des enfants là-bas, on ne peut pas les éduquer. Les deux femmes ne s'entendent pas, hein, en général les co-épouses ne s'entendent jamais. Il y a la guerre, etc. Il a dit de préférence, on se suffit à une seule. Mais il a dit, je dis bien, il a dit, mais je n'interdis à personne de se marier avec une deuxième, troisième ou quatrième. Allah Ta'ala lui a donné cette chose. Je ne lui interdis pas. Quoique Cheikh Ibn Uthaymin Lahmou est de l'avis que la femme, lors du contrat de mariage, elle peut faire et mettre comme condition que son mari ne se marie pas sur elle. Qu'il ne l'accepte qu'elle, yani qu'elle n'aura pas de co-épouse. Il est de cet avis. On le verra, Inch'Allah Ta'ala, plus tard, quand on arrivera à ce point, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Tayyib. Ensuite, deuxième qualité requise, c'est quoi? Deyina. Premièrement, il a dit on se marie avec une seule. Deuxièmement, deyina. Deyina, c'est quoi? C'est religieuse. Naam. Je n'oublierai pas de dire que Cheikh Ibn Uthaymin Lahmou a eu trois femmes dans sa vie. La première, elle est morte. La deuxième, il l'a divorcée. Et la troisième, c'est lui qui est mort, Lahmou. Et il l'a laissé. C'est lui qui est mort, Allah yarhamou, et il l'a laissé. Allah yarhamou. Il a dit religieuse. Naam. Tayyib. La sœur dit je ne peux pas, yani, coller. Subhanallah al-Azim. Allez, je colle à sa place, moi. Naam. Religieuse, pieuse. Religieuse, c'est-à-dire pieuse. طيب, où es-tu, talibatu ilm, talibatu ilm, où es-tu, barakallahu fik, na'am. Je t'ai enlevé le point rouge, je ne sais pas pourquoi tu ne peux pas coller. Peut-être seulement cette phrase, peut-être seulement cette phrase. Quand on se marie avec une femme qui est pieuse, qui est religieuse, on a gagné beaucoup de choses. Au moins, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que quand je sors de la maison, elle a peur du Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas elle a peur de moi. Quand elle a peur seulement de moi, ça veut dire quand je suis absent, elle fait ce qu'elle veut. Et plusieurs femmes font ce qu'elles veulent lorsque le mari est absent, parce qu'elles n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand elle a peur d'Allah, elle sait que c'est Allah ta'ala qui la voit et qui la surveille. Donc, même en l'absence de son mari, elle ne fait jamais rien. Elle ne fait jamais rien qui soit illicite. Ensuite, quand on se marie avec une femme qui est religieuse et pieuse, mashallah, qu'est-ce qu'on gagne aussi? On gagne que si jamais on n'est pas d'accord sur une chose, on a quoi? On a le Coran et la Sunna qui sont des juges pour nous. Mais si elle n'est pas religieuse ou bien lui n'est pas religieux, on ne peut pas se comprendre. On ne peut pas se comprendre. Le vendredi, je dis à ma femme, prépare-toi, on va aller à la mosquée. Il y a un grand dans ce mashallah. Elle me dit, subhanallah, moi je croyais qu'on allait aller à la plage. Aujourd'hui, vendredi, c'est un jour de repos, ou là, je ne sais pas quoi. On va à la plage. Regardez, subhanallah, pourquoi? Ils ne sont pas sur le même sentier. Ils n'ont pas les mêmes pensées, ni les mêmes convictions. Donc, leur vie, le mode de vie ne sera pas le même. Mais, si elle est religieuse, je lui dis, attention, qu'est-ce que tu as dit? Hein? Tu as oublié que yani, c'est le vendredi et que yani, s'il y a quelque chose qui ne va pas avec, entre toi et moi, on revient au Coran et Sunna, ce sont eux qui jugent. Naam. C'est l'avantage de se marier avec une femme qui est religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Tunkahu al-mar'a li arba, la femme, on l'épouse pour quatre choses, l'une des quatre choses, l'imaliha pour son argent, hasabiha pour ses parents, etc. Elle est une grande famille, pour Jamaliha, à cause de sa beauté, et pour Diniha, et à cause de sa religion. Fadfar bidat din teribet yadek. Marie-toi avec celle qui est religieuse, teribet yadek. Teribet yadek, tu seras pauvre, ce n'est pas un doua ici contre toi. Non, ce n'est pas un doua contre toi. Donc, quand tu te maries avec une femme religieuse, en même temps quoi? En même temps, alhamdoulilah, tu as obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, on a cité que Talibatou ilm, lève ta main pour savoir où tu es. Lève ta main, Inch'Allah Ta'ala, pour savoir où tu es. Naam. Si, Inch'Allah Ta'ala, tu ne peux pas coller, il n'y a pas de mouchkila. Si tu ne peux pas coller, il n'y a pas de mouchkila. Je peux continuer, Inch'Allah Ta'ala. Et on a montré quand est-ce que, par exemple, si la femme remplit deux ou trois conditions, ou bien, par exemple, elle a la condition de la beauté, naam, et l'autre à la condition du din, mais elle est moins belle. Comment on choisit? Si son cœur penche vers celle qui est belle et ne penche pas beaucoup vers celle qui est religieuse. On l'a dit la fois passée et je résume très vite que ce n'est pas interdit de se marier avec une fille ou une femme qui remplit deux ou trois conditions. Mais l'essentiel c'est de commencer par quoi? Par chercher la première condition qui est quoi? Qui est la religion. Je me rappelle maintenant de ce qu'a dit Ali radiallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand une femme se marie avec quelqu'un qui est religieux, s'il l'aime, il va la gâter. Et s'il ne l'aime pas, il ne va pas lui faire du tort. Subhanallah, regardez qu'est-ce qu'il a dit. S'il l'aime, puisqu'il est religieux, s'il l'aime, masha'Allah, elle sera gâtée. Et s'il la déteste, là, elle ne peut pas rentrer dans son cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui fait pas du tort et ne la laisse pas. Naam. Mais si jamais elle se marie avec quelqu'un qui est religieux, s'il l'aime, qui n'est pas religieux, pardon, s'il l'aime, alhamdoulilah, elle a gagné. Mais s'il ne l'aime pas, elle va avoir beaucoup de problèmes avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas religieux et ne craint pas Allah. Donc, peut-être il va lui donner des coups, peut-être il va la faire sortir de la maison, peut-être. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur d'Allah. Mais l'autre, non. Même s'il ne l'aime pas, il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait que c'est une amana, c'est un dépôt qui est entre ses mains. Naam. Ensuite, troisième condition, il a dit quoi? Non. Il a dit ajnabiya. Donc, première condition, qu'est-ce qu'on a dit? Il se marie avec une. Deuxième chose, ce n'est pas des conditions, des qualités. Deuxième qualité, il se marie avec une religieuse. Troisième, il a dit, il se marie avec une étrangère. Une étrangère, c'est-à-dire, de préférence, il ne se marie pas avec qui? Étrangère à la famille. Non. De préférence, il ne se marie pas avec une femme de la famille. Et on a dit pourquoi? Pourquoi? Ils ont dit parce que quand il se marie avec une étrangère, lorsqu'il aura un enfant, l'enfant va tirer son tempérament et son caractère, etc., et il va puiser de deux sources. Non, la source du père et la source de la mère qui est étrangère, c'est-à-dire ses oncles. Il va puiser de la source du père et de la source des oncles et des tantes, c'est-à-dire les sœurs de son épouse et ses frères. Mais s'il se marie avec, par exemple, sa cousine, l'enfant ne va tirer que d'une seule source. Parce que sa cousine, c'est en fin de compte, ils ont peut-être deux pères qui sont des frères, etc. Donc l'enfant va puiser d'une seule source. Il ne va pas être, Najib. Najib, vous savez comment on dit Najib en français? C'est-à-dire... Il est prodigieux, il ne va pas être prodigieux, non, il ne va pas donner beaucoup de choses. Et la deuxième raison, c'est quoi? Quand on se marie avec une femme étrangère à la famille, ça nous permet quoi? Ça nous permet, si jamais il y a des problèmes entre moi et ma femme, alhamdoulilah, ça ne va pas toucher toute la famille. Non, ça ne va pas toucher toute la famille. Mais si je me suis marié avec ma cousine et maintenant j'ai des problèmes, ça veut dire que quoi? Déjà ma mère et la mère de ma femme, qui est aussi peut-être la sœur de ma mère, etc. Classe, elles vont rompre les relations à cause de quoi? À cause de la mésentente entre moi et ma femme. Donc la relation entre les deux familles va être influée. Naam. Et ce sera grave, bien sûr. Ce sera la cause pour rompre entre deux familles. Naam. Maintenant, je crois que ici, Allah Ta'ala A'lam, vous me reprenez si je me trompe, ici commence le nouveau DAS. J'ai pris beaucoup de temps dans la révision, tellement le mariage est important et que pour vous compreniez bien, Inch'Allah Ta'ala. Bikr, ici, Alhamdulillah. Quatrièmement, il a dit de préférence, il faut qu'elle soit Bikr. Bikr, c'est vierge. C'est une femme qui ne s'est jamais mariée. Quand eux, ils disent Bikr, autrefois, c'est une femme qui ne s'est jamais mariée. Et une femme qui ne s'est jamais mariée, elle est toujours vierge. Une femme qui ne s'est jamais mariée est toujours vierge, bien sûr. Autrefois, vous savez, quand la femme était vierge, bikr, ça veut dire qu'elle n'a jamais connu un homme. Elle n'a jamais connu un homme, ni un homme n'a pu l'approcher. Maintenant, c'est très dommage que beaucoup de femmes, même tout en étant vierges, mais elles ont connu beaucoup d'hommes. Non, elles ont connu beaucoup d'hommes. Mais, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pardonneur et le miséricordieux. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de ne pas être mort sur ce chemin. Alhamdoulilah, on doit chaque nuit avant de dormir, et le jour, quand on pense à cette chose, on doit toujours dire, alhamdoulilah, que je ne sois pas mort dans l'autre chemin, dans la zina, dans l'alcool, dans les dancings, dans ceci. Alhamdoulilah, subhanallah ta'ala, qui suis-je? Qui suis-je pour que Allah ta'ala m'ait choisi? Il m'a choisi entre des millions et, subhanallah l'azim, a raffermi mon cœur et a fait descendre la foi dans mon cœur. Il m'a choisi. Celle-là, c'est une grande, grande ni'ma. Il ne faut pas oublier de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma. Naam. Donc, il a dit de préférence, on se marie avec une fille qui est vierge. Une fille qui est vierge. Je vais citer ici le hadith. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à qui? À Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Il lui a dit, est-ce que tu t'es marié? Il a dit oui, naam. Qala, bikran am thayyiban? Tu t'es marié avec une vierge ou bien avec une femme qui s'est déjà mariée? Il a dit thayyiban, avec une femme déjà qui s'était déjà mariée autrefois. Le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, فهل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ Pourquoi pas? Pourquoi tu n'as pas choisi une vierge? Tu l'aibwa, tu l'as fait jouer, elle te fait jouer. Naam. Certains ont dit ici, tu l'aibwa, ça a aussi rapport avec la salive. En arabe, on dit l'ou'ab. L'ou'ab, je vais l'écrire. Jazakallahu khair. Naam. Abu Maryam, jazakallahu khair. Moi, quand je colle quelque chose, j'oublie que je n'ai plus le micro. Donc, j'ai dit que la plupart des ulama ont dit, tout l'aïboua, ça vient de jouer. Tu joues avec elle, elle joue avec toi. Et d'autres ont dit, ça ne vient pas de jouer, ça vient de l'ou'ab. L'ou'ab, c'est la salive. La salive, c'est-à-dire, bien sûr, yani, tu l'embrasses, elle t'embrasse, etc. Non. Le Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamuhu, a dit, pourquoi vous pouvez coller avec la souris? Non, Cheikh, pour une texte, je pense que vous pouvez coller avec la souris. Naam, je vais... Justement, c'est ce que je fais. Je colle avec la souris. Je colle avec la souris. Naam. Mais quand je colle, des fois, en même temps, je touche avec la souris, je touche le micro. Naam, quand je touche le micro, il se détache. C'est ça le problème, c'est tout. Je disais, pourquoi de préférence on se marie, avec une vierge? De préférence, on se marie avec une vierge. Pourquoi? Parce que la vierge n'a pas connu d'homme avant toi. Quand tu te maries avec une vierge, cette vierge n'a pas connu d'homme avant toi. Et donc, son cœur, disons, n'est pas attaché avec une autre personne. Elle n'est pas là avec toi en train de penser à une autre personne qu'elle a connue avant toi. Et ensuite, tu as l'avantage que personne ne l'a touché avant toi. Donc, فَتَتَعَلَّقُ بِهِ أَكْتَرُ. Donc, elle va yani, s'attacher beaucoup plus à cet homme qui est nouveau pour elle. Cet homme, yani, le premier, qui vient de rentrer dans sa vie. Et toutes les femmes et tous les hommes savent que yani, le premier, c'est le plus essentiel. C'est pour ça que quand... Yani, on a un premier homme ou on a une première femme, si bien sûr il était bien et remplissait les conditions, ensuite il s'est passé quelque chose, un divorce ou une mort, il est très très difficile de l'oublier, même si on se marie une deuxième et troisième fois. Non. Il a dit لكن قد يختار الإنسان السيبة لأسباب. Mais des fois, il a dit, Cheikh Rahmou, on peut choisir une femme déjà mariée. On ne se marie pas avec une vierge, mais on se marie avec une femme déjà mariée. Pourquoi? Il a dit, pour des raisons. Hein? Et le plus grand exemple, c'est quoi? C'est le premier mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas commencé avec une vierge, mais il a commencé avec Khadija, radiallahu ta'ala, qui était déjà mariée deux fois avant lui. C'était son troisième mariage par rapport à elle, radiallahu ta'ala. Il a dit, dans quel exemple de préférence, on se marie avec une femme qui s'est déjà mariée. Il a dit, comme dans le cas de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu. C'est quoi le cas de Jabir, radiyallahu ta'ala anhu? C'est, comme dans un hadith que je vais vous citer, naam, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à Jabir, il lui a dit, tu t'es marié déjà? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, avec qui? Avec une vierge, yani, il n'a pas épousé une vierge. Lui a expliqué la raison. Marié avec, et qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète Hassan lui a dit, فَهَلَّا جَرِيَةُ لَعِبُهَا وَتُلَعِبُكَ. Pourquoi tu n'as pas épousé une vierge, une jeune comme ça? Tu l'as fait jouer, elle te fait jouer. وَتُضَحِكُهَا وَتُضَحِكُكَ. Et tu l'as fait rire et elle te fait rire. Non, tu l'as fait rire et elle te fait rire. فقلت, j'ai répondu, إن عبد الله هلك وترك بنات. Il a répondu, يعني, mon père est mort et a laissé des filles. C'est dans un hadith, c'est dit 6 filles. Dans un autre hadith, c'est noté 9 filles. Il est mort, il a laissé 6 filles ou 9 filles. C'est-à-dire que ce sont ses sœurs, bien sûr. Il a dit, وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن. Et je n'ai pas voulu que je leur vienne, c'est-à-dire que je vienne à mes sœurs, en quoi ? Yani que je leur apporte une fille comme eux. Naam. Maintenant, j'ai des sœurs 6 ou 9, peut-être il y en a parmi mes sœurs, celle qui a 18 ans, celle qui a 20 ans, je ne sais pas, elles sont 9. Alors je vais leur apporter une fille comme elles, yani toutes le même âge. Dans un autre hadith, il a dit, Kharqa, j'ai pas voulu leur ramener une fille qui n'a rien dans la main, c'est-à-dire qui ne sait pas faire qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas coudre, qui ne sait pas laver les vêtements, etc. Parce qu'elle est jeune. Elle a dit, dans un autre hadith, il a dit, alors j'ai choisi celle-là, j'ai choisi donc, je me suis marié avec une femme déjà mariée, pourquoi ? Il a dit pour qu'elle puisse les peigner. Elle puisse peigner mes sœurs et elle puisse yani, faire le nécessaire. Yani, les laver, etc., etc. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il a dit « Barakallahu lak » ou il a dit « Khayran » Il a dit ou bien « Barakallahu lak » ou bien il a dit « Khayran » Regardez ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il l'a exhorté, il lui a dit « Pourquoi tu ne t'es pas marié avec une vierge ?» Allah, marie-toi avec une vierge. Mais lorsque Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu, lui a donné les raisons, le prophète alayhi wa sallam lui a fait des douas, mashallah, il lui a dit barakallahu lak. Tu as bien réfléchi, tu as bien fait. À quoi ça sert? J'ai maintenant 6 ou 9 filles, naam, elles sont toutes jeunes, je vais leur ramener une jeune de 17 ans, de 18 ans. C'est sûr qu'elle ne pourra même pas, yani, elle ne pourra pas avoir, comment on appelle ça, yani, elle ne pourra pas avoir le mot dans, avec mes soeurs. Naam, elle ne pourra pas être, comment on il y a un mot ici, elle ne pourra pas, si je puis dire, yani, commander, etc. Naam, elle sera effacée. Elle sera effacée devant 7 ou 9 filles qui ont le même âge. Donc il a choisi une femme déjà mariée, une femme qui a déjà de l'expérience. Qui a déjà de l'expérience. Une femme qui vient pour commander, pour guider. Naam, ce n'est pas elle va jouer avec elle du matin au soir. Elles vont toutes jouer à la poupée du matin au soir. Naam, sinon ce sera, yani, sera grave, bien sûr. Donc, autoritaire. Naam, elle ne peut pas être autoritaire. Elle ne peut pas être. Si elles ont toutes le même âge, elle ne peut pas être autoritaire. C'est pour ça qu'il a choisi déjà une femme qui a de l'expérience. Ça. Donc, si on se marie maintenant, on se marie avec une fille qui n'est pas vierge, alors que de préférence, il faut la vierge, mais si je me marie avec une fille qui n'est pas vierge, c'est pourquoi ? C'est parce que j'ai des raisons, j'ai des excuses valables, comme les excuses et les raisons de Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, les savants, les ulama, ont pris ici, yani, ils ont pris un bénéfice, fa'ida. Vous savez laquelle ? Certains savants disent que la femme n'est pas obligée de travailler et d'aider, par exemple, les parents du mari. Certains ulama disent que la femme, quand elle se marie, elle s'est mariée spécialement pour son mari. Et même pour son mari, certains ont dit que ce n'était pas obligé qu'elle le travaille. Non, ce n'était pas obligé. Non, ils se sont basés sur le verset. Il dit que c'est marié avec elle pour les plaisirs, pour les enfants, etc. Mais ce n'est pas pour autre chose. Mais le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est que la femme doit faire l'essentiel avec son mari. Et là, je ne vais pas dire elle doit, mais c'est conseillé, si son mari, par exemple, elle vit par exemple avec son mari et son père, ou bien elle vit avec son mari et sa belle-mère, ou bien elle vit avec son mari et il a par exemple deux sœurs. C'est conseillé, si elle veut avoir des hasanat et des ajr, c'est conseillé de quoi? C'est conseillé qu'elle yani, aide, qu'elle aide aussi ses parents. Non, ce n'est pas obligé, je dis bien, ce n'est pas obligé, c'est seulement conseillé. Si elle veut avoir des hasanat, non, elle veut avoir des récompenses demain, incha'Allah ta'ala. C'est pris de quoi? C'est pris de ce hadith. Vous avez remarqué? Dans ce hadith, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je me suis marié parce que je suis marié avec une non-vierge, car je cherchais une femme qui pouvait aider mes sœurs, aider pour les peigner, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne lui a pas dit, non, pourquoi tu fais venir une femme pour qu'elle aide tes frères et tes sœurs, etc., ce n'est pas obligé. Non, il ne lui a pas dit non. Donc d'ici, on prend que c'est permis. Et que si elle fait cela, elle aura, inshallah ta'ala, des récompenses. Elle aura des sous. Ici, le Cheikh a dit, Allah yirhamo, le Cheikh a dit, Naam, on est toujours à Bikr. Naam. On va passer, inshallah ta'ala, la cinquième qualité. Cinquième qualité, il a dit, Waloud. La cinquième qualité, de préférence, il choisit une femme qui est comment? Une femme qui est Waloud. Waloud, c'est-à-dire une femme féconde, une femme prolifique, une femme qui donne des enfants, bi'idna azzawajal. Une femme qui donne beaucoup d'enfants. Une femme qui donne beaucoup d'enfants. Naam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a déjà cité une fois le hadith, où il a dit, tazawwajul waloud. Mariez-vous avec les femmes aimantes, al-waloud, al-waloud, celles qui sont fécondes. Fa inni mukathirun bikum al-anbiya yawm al-qiyamah. Et dans une autre version, fa inni mukathirun bikum al-umam, al-umam yawm al-qiyamah. Donc, le prophète alayhi salatu wa sallam nous a exhorté à ce qu'on se marie avec une femme qui soit féconde pour avoir la progéniture et pour avoir yani, une descendance, comme j'ai dit tout à l'heure, et pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit content et soit fier le jour de la rétribution. Et comme ça, subhanallah al-adim, toutes les autres nations, quand elles vont voir que le prophète alayhi wa sallam avait un très très grand nombre qui l'ont suivi. Un très très grand nombre de musulmans, mashallah, qui l'ont suivi. Donc, le prophète alayhi wa sallam sera fier. Et toi, en donnant beaucoup d'enfants, tu vas être la cause de la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que la femme, et même l'homme, quand ils veulent avoir des enfants, et même quand ils font le rapport conjugal, etc., ils ne font pas seulement sur base de tentation, mais aussi pour atteindre cette grande chose. C'est de quoi? C'est de proliférer afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit fier de nous yawm al-qiyamah. Maintenant, le Cheikh Rahmo a dit, est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'on dise de préférence il se marie avec une vierge et de l'autre côté qu'on dise qu'il se marie de préférence avec une femme qui soit féconde? Naam. Certains vont voir qu'il y a ici une contradiction. Où est la contradiction? La contradiction, c'est puisqu'il nous a poussé et exhorté à nous marier avec une féconde. Et d'un autre côté, il faut qu'elle soit vierge. Comment allons-nous savoir que cette femme est féconde et va donner beaucoup d'enfants, alors que quoi? Alors qu'elle est vierge, elle ne s'est jamais mariée. Dame, comment je vais savoir, moi, que cette femme est féconde? Pour que je sache qu'elle soit féconde, il faut qu'elle se soit déjà mariée, alhamdoulilah, et elle a eu déjà des enfants avec celui qui était avant moi, avec le premier. Donc je vais dire, mashallah, celle-là, elle a déjà 3 ou 4 enfants, donc c'est une femme féconde. Maintenant, si elle ne s'est jamais mariée, comment vais-je savoir si elle est féconde ou pas? Puisque le prophète Islam nous demande de nous marier avec une vierge. Yaoulama, on dit, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ses proches. Naam. On regarde sa mère. On regarde ses sœurs. Si elle n'a pas de sœurs, on regarde ses tantes. Naam. C'est presque, si je puis dire, héréditaire. Naam. C'est en général comme ça. Si une femme, naam, ses sœurs donnent des enfants et sont fécondes, la plupart du temps, elle aussi, elle donne. Naam. C'est la règle générale, bien qu'il y ait des fois, bien sûr, des exceptions. Mais en général, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On regarde ses sœurs, on regarde sa mère, combien elle a eu d'enfants, on regarde ses tantes. Est-ce que ce sont des femmes fécondes qui donnent beaucoup d'enfants? Si c'est le cas, on se marie avec elle, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh a dit quelque chose ici, a dit, naam, وَلِأَنَّ كَفَرَتِ الْأُمَّةِ رِزُونَ لَهَا. Naam. Et le fait qu'une nation comporte beaucoup d'individus, le fait qu'une nation comporte beaucoup d'individus, c'est une gloire pour elle. Naam. C'est une gloire pour une nation, mashallah, qui comporte des millions et des millions d'individus. Naam. Ensuite, il a dit وإياك وإياك وقول المديين الذين يقولون إن كثرة الأمة يوجب الفقر والبطالة والعطالة. Il a dit, mais attention, et fais attention à certains matérialistes qui disent quoi? Qui disent que le fait, par exemple, d'avoir beaucoup d'enfants, ça va nous mener à quoi? Ça va nous mener à la pauvreté. Beaucoup de gens disent comme ça. Et si je me marie, pardon, si je vais avoir beaucoup d'enfants, je vais devenir quoi? Pauvre. Non. Ma paye ne va plus me suffire. Non, maintenant, j'en avais un seul, maintenant j'en ai quatre ou cinq. Comment vais-je faire? Je vais devenir pauvre. Ou bien, il a dit, ils vont dire, ça va mener au chômage. Non, c'est pas bien d'avoir une nation qui contient beaucoup d'individus, car ils ne vont pas trouver le travail. Ça donnera le chômage. Ou bien l'itala, ou bien l'oisiveté. Il a dit, bel wal kasratu izzun. Le kasra, il a dit, le fait que la nation soit, mashallah, grande, il a dit, c'est une gloire. C'est pour ça que Allah Ta'ala a dit dans le Coran, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِرًا. Il a dit, وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكْثَرَكُمْ. Et rappelez-vous, lorsque vous étiez peu, et je vous ai multiplié. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala se fait des éloges à lui-même. Il dit, rappelez-vous, lorsque vous étiez peu, et je vous ai quoi? Je vous ai multiplié. J'ai multiplié votre nombre. Donc, le fait qu'on multiplie, ça veut dire que c'est une chose que Allah ta'ala aime. Allah ta'ala aime qu'on ait beaucoup d'enfants et que cette nation, yani son nombre soit multiplié et multiplié. Naam. لكن مع الأسف أن بعض الناس الآن يختاروا المرأة التي لا يمكن أن التي يمكن أن تكون عاقما. Il a dit, نعم, واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. Et rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre. Subhanallah al-Azim. نعم. Il a dit, mais ce qui est malheureux, c'est que de nos jours, certains choisissent, subhanallah al-Azim, choisissent la femme qui est stérile. Ce qui est malheureux, c'est que certains de nos jours choisissent la femme qui est stérile. فَهِيَ أَحَبُّ مِنَ الْوَلُودِ. Pour eux, la femme qui est stérile, pour certains, elle est mieux que la féconde. Elle est mieux que celle qui donne beaucoup d'enfants. وَيُحَوِلُونَ أَنْ لَتَلِدَ نِسَاؤُهُمْ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَ وَرْبَعَ سَنَوَاتٍ مِنْ زَوَاجٍ وَمَشْبَهَ ذَلِكَ. Et il a dit, certaines personnes voudraient que leurs femmes, leurs épouses, ne donnent pas de naissance jusqu'à après 3 ou 4 années de mariage. Même certaines personnes, ils disent, on se marie, mais la première année, deuxième année, troisième année, je ne voudrais pas avoir d'enfant. Je voudrais, Inch'Allah, après la quatrième année ou cinquième année. Il a dit, وَهَذَا خَطَى. Et ça, c'est une faute. Ça, c'est faux. Ça, ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas vrai. لِأَنَّهُ خِلَافُ مُرَادِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Parce que ça va à l'encontre de quoi? De la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète voulait sallallahu alayhi wa sallam qu'on se multiplie et qu'on soit nombreux pour qu'il soit fier de nous le jour du jugement dernier. Et celui-là, il dit non, moi je ne voudrais pas yani, avoir d'enfants les trois premières années de mariage ou les quatre premières années. Non. Il a dit وَيَقُولُونَ أَحْيَانًا إِنَّ تَرْبِيَتَهُمْ تَشُقْ. Et certains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi je ne veux pas avoir d'enfants. Pourquoi je ne veux pas avoir beaucoup d'enfants? Parce que leur éducation est difficile. Il est difficile de les éduquer. Subhanallah al-Azim. Et que dit Cheikh Lahmou? Il dit, le Cheikh Lahmou le répond, il dit, إِذَا أَحْسَنْتُمْ الظَّنَّ بِاللَّهِ أَعَانَكُمُ اللَّهِ. إِذَا أَحْسَنْتُمْ الظَّنَّ بِاللَّهِ أَعَانَكُمُ اللَّهِ. Il a dit, mais si vraiment yani vous pensiez des choses bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous aurait aidé. Naam. C'est quand quelqu'un yani, ne pense pas des choses bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit des choses pareilles. Mais quelqu'un qui pense des choses bien d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, il fait des enfants et Allah subhanahu wa ta'ala ne le laissera pas. S'il est pauvre, il va l'enrichir. Naam. Et il va l'aider bi'idna azza wa jal. Pourquoi? Parce qu'il a fait des enfants, c'est pas par tentation, mais pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit fier de lui et pour yani, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. ويقولون احيانا ان المال الذي عندنا قليل et parfois qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là ils disent l'argent qu'on a ne suffit pas la paye est petite mon mari ne travaille pas mon mari ne travaille pas tout le temps et yani des choses comme ça bien sûr futiles alors lui le cheikh répond à cela on dit Allah Ta'ala a dit وما من دابة في الارض الا على الله رزقها Il n'y a pas une créature sur terre, yani vivante, qui marche sur terre, sans que, ni sur terre et sur mer, bien sûr, sans que ce ne soit nous qui lui donnons ses biens. Naam. Toutes les créatures qui vivent sur terre vivent avec l'aide de Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne les biens. Naam. Wa ahyanan yara al-insana rizqa yinfatihu lahu idha wulida lahu. Subhanallah al-azim. Et le Cheikh Rahmoua dit, et des fois, la personne voit que les portes des biens, les portes de l'argent, les portes de biens, s'ouvrent quand il commence à avoir des enfants. Subhanallah. Plusieurs personnes, yani, ne veulent pas avoir d'enfants, à cause d'eux, ils ont peur de l'argent, etc. Mais ils ne savent pas que, voilà que, à partir du moment où ils ont commencé à avoir des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à leur ouvrir quoi? Les portes, masha'Allah. À commencer à leur ouvrir la porte et les portes, masha'Allah. Et le Cheikh Rahmo va citer quelque chose de personnel. Il a dit, et quelqu'un m'a raconté, et ce quelqu'un qui m'a raconté, c'est quelqu'un auquel je fais confiance. Je le connais bien, je lui fais confiance. Il m'a raconté que, et il a dit cette personne qui m'a raconté, C'est un commerçant, quelqu'un qui vend et qui achète. Il a dit, il m'a dit, « Inni mundu tazawwajtu fataha Allahu alayya baba rizqin. » Il a dit, subhanallah al-azim, « Dès que je me suis marié, depuis que je me suis marié, Allah Ta'ala, le Seigneur, m'a déjà ouvert une porte de bien, une porte. » Naam. « Wa lamma wulida waladi fulan in fataha babu rizqin akhar. » Et lorsque mon fils X, ma femme a accouché de mon fils X, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur exalté soit-il, m'a ouvert une autre porte, une autre grande porte des biens. Subhanallah, combien de familles étaient pauvres et avec les enfants, en donnant naissance à des enfants, Allah subhanahu wa ta'ala les a enrichis. Parce que le bébé, qui l'a créé? C'est le Seigneur qui l'a créé, exalté soit-il. Est-ce que tu penses que le Seigneur crée quelqu'un et le laisse comme ça à mourir sans manger ou là? Donc, Allah Ta'ala, quand il crée quelqu'un, vous connaissez tous le hadith, au quatrième mois, il écrit quatre choses. Garçon ou fille, ses biens, ses actions, et quand est-ce qu'il va mourir. Donc, ses actions sont, ses biens sont écrites déjà le quatrième mois. Déjà, quand il est dans le ventre de sa femme, dans le ventre de sa mère, déjà, il a une partie des biens qui est écrite. Normalement, chaque homme serait content de dire quoi? Quand il sait que sa femme est enceinte, il dit « Alhamdoulilah ». Déjà, yani, on a quelqu'un dans ton ventre qui a avec lui des biens. On attend seulement, inshallah ta'ala, qu'il sorte inshallah, de ton ventre pour qu'on profite avec lui des biens, inshallah ta'ala, qu'il va faire amener avec lui. Naam. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَّهِ رِزْقُهَا. Il a dit, وَلَا تَقْتُولُ أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Attention, ne tuez pas vos enfants par pauvreté. C'est nous qui leur donnons des biens à eux et à vous. Naam. Il a dit, mais si quelqu'un va dire, أنا أحب أن تبقى زوجتي شابة فلا أحب أن تلد. Bon, certains vont trouver maintenant des excuses froides pour que la femme, yani, ne donne pas d'enfant. ils vont trouver des excuses froides. Certains, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je voudrais que ma femme reste jeune. Voilà ma cause. Je voudrais que ma femme reste jeune. Car, quand bien sûr la femme se marie, commence à donner naissance après naissance, bien sûr, elle va déjà avoir, surtout si elle allait à chaque naissance, elle va avoir déjà sa poitrine qui descend, elle peut avoir des rides au niveau de son buste, de son ventre, etc. Il a dit, moi, je ne veux pas avoir des enfants pour que ma femme, reste toujours jeune. Le Cheikh Lahmo a répondu, فَنَقُلْ هَذَا غَرَضٌ لَا بَأْسَ بِهِ لَكِنَّ الْوِلَادَ أَوْ كَثْرَةَ الْأَوْلَادِ أَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ. On va dire, ça, c'est une raison plausible. Le fait de dire, je voudrais que ma femme reste toujours jeune et belle, c'est une bonne raison. Mais il a dit, le fait qu'elle donne naissance à des enfants, c'est mieux. Non. Le fait qu'elle soit jeune et belle, c'est bien, mais qu'elle donne naissance à des enfants, c'est mieux. Et si quelqu'un dit, moi je voudrais organiser les naissances. Je voudrais avoir des enfants, mais je voudrais organiser. Par exemple, avoir un bébé, ensuite attendre par exemple 2 ou 3 ans, jusqu'à ce qu'il grandisse un peu, ensuite avoir le deuxième, juste question d'éducation, etc. Il a dit, le cheikh ici a répondu, cela ne contient aucun mal. Cela ne contient aucun mal. Si tu veux quoi? Tu veux séparer un peu les naissances à cause de la bonne organisation. Mais tu as toujours dans le but d'avoir beaucoup d'enfants. Non, tu as toujours dans le but d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants, mais tu fais l'organisation, l'espacement des naissances, Inch'Allah ta'ala, il a dit c'est permis. Car, il a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kainu ya'ziloun. Déjà, les compagnons du prophète ont appliqué cela au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kainu ya'ziloun, comme a dit Jabir ibn Abdillah, kunna na'zil ou le Qur'an ou yinzil. C'est-à-dire, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons, quand ils faisaient le rapport, quand ils faisaient le rapport conjugal avec leur femme, quand ils arrivaient, au moment de faire sortir le liquide, ils sortaient leurs membres et jetaient le liquide, c'est-à-dire ils éjaculaient. Ils éjaculaient à l'extérieur, pas à l'intérieur du membre de la femme. Pourquoi ils font cela? Pour ne pas avoir d'enfant. Et maintenant, il y a bien sûr, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, des choses où, si l'homme met cette chose qui est en plastique, etc., s'il la met sur son membre, c'est-à-dire, il peut même continuer jusqu'à ce qu'il éjacule, ça ne fait pas mal, puisque le liquide va rester dans cette chose qui est en plastique. Mais autrefois, il n'y avait pas cette chose, juste avant d'avoir le plaisir, il se retirait et jetait le liquide comme ça, dans une serviette ou je ne sais pas quoi. Le muhim, cela est permis. Non, cela est permis. Maintenant, il y a aussi quoi? Maintenant, il y a aussi la pilule. La pilule, elle est aussi permise, mais avec 2 conditions, ou 3, ou 4, ou 4. La première, c'est avec l'avis du mari. Ce n'est pas en cachette du mari. En cachette du mari, c'est haram. La femme est rentrée dans le péché. Si elle prend la pilule, en cachette du mari, il ne sait pas. Il faut que ça soit après leur accord, les deux. Deuxième condition, il faut que ça soit après l'avis du médecin. Ce n'est pas elle qui décide, n'importe quelle pilule. Il y a beaucoup de sortes de pilules et il faut que ça soit le médecin qui choisisse. Troisième condition, il faut qu'elle soit sûre que cette pilule ne va pas lui faire mal. Des fois, la pilule, elle peut, comme tout le monde le sait, elles ont les varices pour certaines femmes. Il faut donc la pilule qui lui soit convenable. Naam. Et peut-être qu'il y a une quatrième condition que j'ai oubliée. Naam. J'ai oublié. Donc il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'elle remplisse les conditions pour prendre la pilule. Et elle ne la prend pas toute sa vie. Elle ne la prend pas toute sa vie, mais c'est juste pour, par exemple, l'espacement des naissances, avec les conditions que j'ai citées, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Ensuite, sixième condition, je crois que c'est la dernière condition, inshallah ta'ala. Sixième condition, na'am, et je termine avec la sixième condition. Je répète, na'am, sixième condition, il a dit, bila'um. De préférence, la femme avec laquelle il va se marier, la femme qui l'a demandé sa main, de préférence, elle soit sans mère, c'est-à-dire orpheline de mère. Donc, avant d'expliquer, je répète les six qualités requises. Premièrement, wahida, se marier avec une seule. Deuxièmement, religieuse et pieuse. Troisièmement, étrangère à la famille. Quatrièmement, vierge. Naam. Cinquièmement, waloud. Cinquièmement, féconde. De préférence, elle soit féconde. Sixièmement, il a dit orpheline de mère, c'est-à-dire elle n'a pas de mère. Ma mère est morte. Il a dit de préférence, je vais choisir une femme qui n'a pas de mère. Ils ont dit ici pourquoi. Pourquoi de préférence il choisit la femme qui n'a pas de mère. De toute façon, ce n'est pas Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahullah qui dit cela. C'est Al-Matin, Al-Hajjawi. C'est celui qui a écrit en haut et le Cheikh va expliquer. Il a dit pourquoi ici il a dit orpheline de mère. Il a dit لأن الأم ربما تفسدها عليه. لأن الأم ربما تفسدها عليه. Il a dit parce que la mère, si elle a une mère, ربما, il est possible qu'elle la gâche pour son mari. Il a dit elle gâche sa fille. Yani, disons, elle l'a corrompe, etc. Et, hein, donc, est-ce qu'on peut s'arrêter, Allah, est-ce que ça a été après que Allah vous préserve. Le Maghreb est passé, il y a 20 minutes. Est-ce qu'on peut s'arrêter après que Allah vous préserve. Naam. Le Maghreb, qu'est-ce qu'elle a dit, le Maghreb est passé. Est-ce qu'on parle? Non, justement, je vais m'arrêter. Oum Abdillah, est-ce que c'est le temps de la salat? Oum Abdillah. Est-ce que c'est le temps de la salade chez vous? Si c'est le temps de la salade, j'arrête. Réponds-moi, Oum Abdillah, écris-moi. C'est passé le Maghreb. Naam, c'est passé. Donc, Inch'Allah ta'ala, ceux qui ont fait la prière, ils l'ont faite. C'est terminé. Naam. Tayyib, c'est passé, alhamdoulilah. Ici, il a dit... Pourquoi ils ont dit de préférence on ne se marie pas avec une femme qui a une mère? Alhamdoulilah, Abou Mariam. Alhamdoulilah. Ils ont dit parce que la mère, elle peut gâcher et corrompre sa fille. Naam. Cheikh Larmou a dit, voilà la réponse du Cheikh Larmou, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a dit, Subhanallah, étonnement, Subhanallah. Hada tasha'um. Ça c'est quoi? Ça c'est du pessimisme. Ça, c'est du pessimisme. Naam, hada tasha'um. Subhanallah al-azim. Et moi, j'ajouterais, ça, c'est même du... Astaghfirullah, ça rentre dans la superstition. Naam. Il a dit, walou ta'ammalta al-waqi'. Et si tu méditais la réalité, wajidta akthar nisa lahunna umma'at. Tu vas trouver que la plupart des femmes ont des mères. Subhanallah al-azim. La plupart des femmes ont des mères. Comment celui-là, il me demande de choisir une femme qui n'a pas de mère. Alors que la plupart des femmes ont des mères. Et la plupart des femmes qui ont des mères, leur mère ne les a pas gâchées et corrompues. Elles sont des épouses, mashallah, alors qu'elles ont des mères. Il a dit, je dirais même que c'est très rare qu'une femme gâche sa qu'une mère gâche sa fille. Il a dit, je dirais même que c'est très rare. Naam, ça arrive, mais c'est très rare. Wa aydan naqul, az-zawju bila umm. Il a dit, alors, s'ils font comme condition pour la femme, l'épouse, qu'elle n'ait pas de mère, alors pourquoi on va pas faire comme condition pour l'époux aussi, qu'il ne doit pas avoir de mère. Naam, quelle est la différence? Pourquoi la femme, tu l'as choisie? Il ne faut pas qu'elle ait une mère. Pourquoi tu choisis l'époux avec une mère. Alors, dans ce cas, il faudrait aussi que l'époux n'ait pas de mère, car on va dire la mère va le gâcher. Non. وكم من أم غارت من محبة ابنها لزوجته نعم donc dans ce cas l'époux aussi ne doit pas avoir de quoi ne doit pas avoir de mère car on va dire combien de mères sont jalouses de leur fils يعني lorsqu'ils se marient combien de mères sont jalouses et disent tiens celle-là يعني la nouvelle mariée elle m'a pris mon fils. Non, elle m'a pris mon fils. Depuis que mon fils s'est marié, il a changé. Lui qui était, mashallah, avec moi, qui à chaque fois me souriait, me demandait mon avis, me faisait sortir, maintenant il m'a oublié. Il ne pense qu'à sa femme. Non. Au point où certains hommes achètent des choses en cachette pour leur donner à leur qui à leur femme. En cachette de qui de leur mère. Alors que le contraire, ça aurait été le plus juste. C'est qu'il cache. Il cache de sa femme pour donner à sa mère. Ce n'est pas le contraire. Ma'alish. Al-Muhim. Il a dit Summa hawalat an tufsida baynaha wa bayna zawjiha. Wa idha kana kadhalik fa innahu la yanbaghi an naqul. Il a dit Et si c'est ainsi, donc il n'est pas permis de dire que la meilleure épouse, c'est celle qui n'a pas de femme. Qui n'a pas de mère, pardon. Il a dit ça, c'est faux. Et ce n'est pas de l'islam. Naam. Cette condition n'est pas de l'islam. De dire que quoi? Qu'on doit choisir, que yani, elle ne doit pas avoir de mère. Bel naqul, yakhtaru imra'atan, naam, yakhtaru imra'atan, ummuha saliha. Mais il a dit, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire, il choisit une femme dont la mère est pieuse et vertueuse. Voilà ce qu'on doit dire. Choisit une femme, une épouse dont la mère est vertueuse et pieuse. Et non pas choisit une femme qui n'a pas de mère. Naam. Amma naqul bila um fa hada nadar. Naam. Mais si on dit choisir une femme qui n'a pas de mère, c'est sujet à méditation. لأن من أمهات من تكون خيرا على بناتهن وعلى زوجهن. Parce qu'il y a des mères qui, masha'Allah, elles sont vraiment un bien pour leurs filles et un bien pour يعني, les maris de leurs filles. نعم. ثم إن المفسدة ليست محصورة في الأم. On dira plus que cela, le mal ne se trouve pas exclusivement en la mère. فقد تفسدها خالتها. Il est possible que sa tante, ça soit elle qui la gâche. Sa sœur qui la gâche. Naam. Une des proches qui la gâche. Pourquoi spécialement c'est sa mère qui va la gâcher? Surtout si elle a une mère qui est pieuse et vertueuse. وتكون الأم, des fois ce sont les proches, les sœurs, etc. qui la gâchent et c'est la mère qui la protège. Maintenant c'est tout à fait le contraire, nous on va dire. On va dire si يعني la mère et masha'Allah c'est elle qui va protéger sa fille. Naam. Certes. Et le mal peut ne pas venir de sa mère mais de sa tante, sa sœur ou de ses proches. Naam. Le mal peut ne pas venir exclusivement de sa mère mais peut venir de sa tante, de sa sœur, ou de ses proches ou bien d'une cousine ou bien Naam. C'est pas spécialement de la mère que vient toujours le mal. On va dire certes, quand quelqu'un se marie avec une épouse et cette nouvelle mariée a une mère qui est pieuse et qui est vertueuse, et celui-là il a beaucoup gagné. Il a gagné au moins deux choses. Il a gagné la femme et il a gagné la belle-mère. Comparé à celui qui se marie, par exemple, avec une épouse qui a une femme, qui a une mère qui a un très mauvais comportement, ou bien qui a une mère qui, yani, est, entre parenthèses, peut-être même une sorcière, ou bien il a une belle-mère qui va tout le temps chez la sorcière, etc. Comparé à l'autre qui a une mère qui est vertueuse et pieuse, il y a là une grande différence. Mais on va dire quel est disons, quel est le péché de celle qui a une mère qui n'est pas bien. Si elle, l'épouse est bien, l'épouse remplit toutes les conditions, mais sa mère n'est pas bien, quel est son péché? Est-ce que à cause de sa mère qui est sorcière ou de sa mère qui va chez la sorcière, est-ce que à cause de cela, on ne va pas se marier avec elle? Où est son péché à elle? Où est son péché? Alors qu'elle, Allah est témoin qu'elle n'accepte pas cette chose de sa mère et que tout le temps elle est derrière elle en train de la blâmer. Et maintenant, est-ce que elle a yani, un péché? Où est sa faute à elle? Mais j'ai dit que si on pouvait choisir entre deux femmes, dont l'une qui a une mère vertueuse et l'autre qui a une mère sorcière, bien sûr, de préférence, on choisirait celle qui a une mère qui est vertueuse. Pourquoi? Pour parer à tous les problèmes. La belle-mère, quand elle n'est pas bien, ça va faire beaucoup de problèmes au couple. Surtout si elle est autoritaire et qu'elle a pression sur sa fille. Certaines épouses écoutent beaucoup plus leur mère que leur mari. Certaines épouses ne font rien avant d'avoir téléphoné à la mère pour lui demander son avis. Maintenant, si la mère est vertueuse, mashallah, on va gagner. Elle ne va donner comme avis que des choses qui vont dans notre bien. Mais maintenant, si la mère n'est pas bien, ou elle est sorcière, ou elle est illettrée, elle est analphabète, elle est je ne sais pas quoi, elle est loin du din, elle va sûrement donner des choses qui vont à l'encontre de quoi? De l'avenir du couple. Qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, qu'elle le fasse exprès ou pas. Mais elle est limitée. C'est seulement, elle ne peut pas voir plus que cela. C'est tout ce qu'elle peut voir. On va s'arrêter, inshallah ta'ala, ici. Il est 23h30 chez moi, inshallah ta'ala, pour vous donner une heure, inshallah ta'ala, pour que je réponde à vos questions. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On se rencontre, inshallah ta'ala, dans un quart d'heure. D'ici au quart d'heure, je vous dis subhanak lahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laissez, inshallah, des questions qui ont rapport, poser des questions qui ont rapport, inshallah ta'ala, avec le mariage, barakallahu fikum, et éviter un peu les cas personnels. Moi, j'ai ceci, moi, mon mari m'a fait cela. Demandez des questions générales. Est-ce que c'est permis en islam ceci, cela? Barakallahu fikum, jazakumullahu khayran, wa akhir da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إن شاء الله تعالى chez moi ici. Il est minuit moins quart. On va s'arrêter إن شاء الله une heure moins quart. C'est-à-dire une heure de questions-réponses. طيب. Je vous ai dit que quand quelqu'un est dans la liste et que pour connexion là il tombe, surtout s'il était premier, il tombe, ça ne fait rien qu'il me le dise pour que je le remette, inshallah ta'ala, à sa place. Donc, on me dit que maintenant, que une sœur qui s'appelle Nusayba, elle muslima, qu'elle était la première en tête de liste, et que, pour mauvaise connexion, elle est souffrée. Donc, je lui donne, inshallah ta'ala, qu'elle pose la première, la question, inshallah ta'ala. Tafadlali. Ensuite, je vous rappelle que le dars, ce cours, Normalement, il ne se fait pas ici en Europe, mais que j'ai pas pu le mettre yani, à sa place, parce que le Pal Talk, yani, il a des problèmes de, comme j'ai dit tout à l'heure, des problèmes de mise à jour, etc. Normalement, ce cours se trouve dans religion et dans islam. Donc là, les prochains cours, à part le cours de dimanche, je suis inshallah ta'ala, dans yani, à part le cours de dimanche, je suis en islam. Non. تفضل الأخت أم نسيبة جات إن شاء الله تعالى لا question écris moi numéro 1 quand je vous enlève le point rouge écrivez moi numéro 1 pour savoir que vous êtes là. Vous commencez par numéro 1, ensuite vous posez la question. تفضل الأخت pour les frères, s'il y a des frères dans la liste qui peuvent poser la question directement par micro, ils le peuvent, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh wa marhaba. Hayyakallah. Allah yhayyik toi aussi. Voilà ma question. La sœur, elle va se marier bientôt, mais pour le moment, elle n'a fait ni le halal, ni l'acte de mariage. Naam. Certes, son futur mari. Inch'Allah ta'ala, écris d'abord la question, termine-la, ensuite, Inch'Allah ta'ala, je la lis. Naam. Et quand tu termines, tu écris numéro 1. Naam. Pour que je sache, Inch'Allah, que tu la termines. Taïb. Alhamdoulilah. Elle va se marier bientôt, mais pour le moment, elle n'a fait ni le halal, ni l'acte de mariage. Certes, son futur mari, Inch'Allah, doit meubler la maison, mais il faut aussi la sœur doit choisir avec, Mais il n'y a pas de mahram du côté de la sœur. Juste la oum. Comment peut-elle faire? Barakallahu fikoum. Naam, juste la oum. Comment peut-elle faire? Barakallahu fikoum. Naam. Si la sœur n'a pas de mahram, naam, celui-là, quand il parle, naam, ce futur époux celui-là, quand il parle avec la mère. Il parle avec la mère de la sœur. Non pas avec la sœur. Il parle avec la mère de la sœur. Et la mère de la sœur lui dit, voilà ce qu'on pense, etc. Mais, de toute façon, je donne un conseil. Tant qu'il n'y a pas encore l'acte de mariage, yani ni le halal, ni l'acte. Tant qu'il n'y a rien, naam, il ne faut pas trop aller loin. Il ne faut pas trop aller loin et rentrer dans les détails, etc. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Car des sœurs, ont beaucoup parlé avec le futur prétendant, etc. Croyons que, classe, le mariage allait avoir lieu et le halal allait avoir lieu bientôt. Et voilà que, subhanallah al-azim, tout a changé et il y a eu le désistement ou bien de la part du mari ou bien de la part de sa part à elle, et tout est tombé bi-idhnillah ta'ala à l'eau. Donc, au lieu de commencer par choisir les meubles, etc., il faut le presser pour qu'il fasse le halal. Ensuite, inshallah ta'ala, ce sera yani, plus facile de communiquer et de choisir, inshallah ta'ala, des choses, etc. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. شيراز تفضلي. Mais dans notre cas ici, il parle mieux à la mère qu'à sa fille. Et même la mère, يعني c'est une étrangère. C'est une étrangère par rapport à cet homme. C'est pour ça que j'ai demandé, j'ai préféré, j'ai conseillé qu'il commence avec le halal. Car même la mère, quand il lui téléphone, c'est qui? C'est une étrangère. Même sa mère à elle. Yani, s'il voulait ou elle voulait aussi, il pouvait l'épouser lui aussi. Si yani, elle était divorcée, etc. Naam. Chira, si tu es là, inshallah ta'ala, tu écris numéro 1. Et Yasmina la Marocaine, que Allah subhanahu wa ta'ala soit avec toi. Tu as aujourd'hui beaucoup de problèmes dans la connexion. Je vois toutes les minutes, tu sors et tu rentres. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'aide. De toute façon, le Paltok ces jours-ci, a des problèmes. Le Paltok ces jours-ci a des problèmes. Moi-même, je vous ai dit, je n'ai pas pu faire le cours aujourd'hui dans ma salle qui est en islam, à cause de la mise à jour, etc. C'est pour ça que j'ai fait le cours aujourd'hui ici dans cette salle. Chéraz, Inch'Allah, si tu es là, numéro 1. Sinon, on passe à Abu Omar. Alhamdulillah. Non, je ne l'ai pas vue. Elle ne s'est pas affichée. Parce que sûrement, tu as collé plus de 5 lignes. J'ai dit, le Paltok n'accepte pas plus de 5 lignes. Une sœur demande, wa alaykoum salam wa rahmatullah, est-ce une bonne raison pour une femme de ne pas vouloir d'enfants pour une durée d'un an afin de finir l'apprentissage du Coran? bihawlillahi, sachant qu'elle sera étudiante en internat avec un rythme d'études intensif. Je répète, est-ce une bonne raison pour une femme de ne pas vouloir d'enfant pour une durée d'un an afin de finir l'apprentissage du Coran, biznillah, sachant qu'elle sera étudiante en internat avec un rythme d'études intensif. Naam, j'ai dit tout à l'heure que si elle ne veut pas avoir d'enfant, qu'elle pouvait faire ce qu'on appelle l'isolement, qu'elle pouvait faire l'isolement, naam. Ou bien on a parlé aussi des conditions de la pilule. Naam. Maintenant, si elle ne le fait pas, seulement pour une année, Inch'Allah ta'ala, c'est possible, si c'est seulement pour une année. Naam. Mais des fois, elle ne peut pas freiner cette chose et ça peut aller à des années. Naam. Ça peut aller à des années. Et il n'y a pas quelque chose qui soit sûr qu'elle ne va pas le faire pour 2 ans. Là, il est possible qu'elle ne termine pas, par exemple, ses études et qu'elle dise donc j'ajoute une année. Et donc ceci, donc cela. Premièrement, il faut que ce soit, comme on dit les savants, avec Naam, il faut que ce soit avec l'avis des deux. Ce n'est pas elle qui décide. Et elle dit, cette année, je ne fais pas d'enfant. Ce n'est pas elle qui décide. Il faut que ce soit avec la concertation et l'avis des deux. Si c'est vraiment avec le Coran pour l'apprendre, etc., il faut qu'elle soit sûre qu'elle ne dépasse pas une année. Il faut qu'elle soit sûre qu'elle ne dépasse pas une année. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Abu Omar, tafadlal. Abu Omar, si tu es là, écris un barakallahu fik. Alhamdulillah. Tafadlal. Si tu veux prendre le micro, tu écris mic. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Une sœur de moi. Allez, quand tu termines, inshallah ta'ala, je vais lire. Quand tu termines, inshallah ta'ala, je vais lire. Et bien sûr, si tu termines, tu écris numéro 1. Sinon, je ne vais pas savoir que tu as terminé ta question. Tu écris 1 quand tu termines, inshallah. Naam. Salam alaikum. Une sœur demande. Quand elle est en état de janaba, elle fait taïmoum car elle est très fragile du froid. Pour l'heure de la salat, elle fait des petites ablutions. Et ce, jusqu'à qu'il fasse moins froid. Est-ce que sa salat est valable? Barakallahu fikoum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Quand attendez une seconde. Oui. Naam. Quand quelqu'un a peur, par exemple, d'utiliser l'eau, a peur parce qu'il risque de tomber malade, ou bien il est malade, il ne peut pas utiliser l'eau, il peut, Inch'Allah ta'ala, faire le taïmoum. Naam. Il peut, Inch'Allah ta'ala, faire le taïmoum jusqu'à ce que il n'ait plus peur. Naam. Jusqu'à ce qu'il ne soit plus malade, ou bien il n'ait plus peur. À condition que ce soit quelqu'un qui a l'habitude de, lorsqu'il emploie l'eau, il tombe malade. Par exemple, ceux qui ont la sinusite, etc. À chaque fois qu'ils prennent une douche, l'eau va mouiller bien leurs cheveux, etc. Ils vont tomber malade. Ceux qui ont cette habitude et ils savent que s'ils vont utiliser l'eau, ils vont tomber malade, ils peuvent, Inch'Allah ta'ala, faire le taïmoum. Maintenant, quand quelqu'un fait le taïmoum, c'est-à-dire, supposons il s'est levé le matin, il a fait le taïmoum. Bon, il va faire la prière du Fajr et du Sobh. Maintenant, entre le Sobh, par exemple, et le Dhuhr, ou bien maintenant, c'est l'heure de Salat al-Dhuhr. Quand c'est l'heure de Salat al-Dhuhr, et, par exemple, si il sait que maintenant il peut se laver, cette personne doit se laver pour le Dhuhr. Naam. Car l'excuse est terminée. L'excuse du froid, maintenant, par exemple, il n'a plus froid, il fait chaud, il y a le soleil, etc. S'il a l'habitude et il sait que lorsqu'il se lave pour le dhuhr, il ne tombe pas malade, il est obligé de se laver. Mais s'il fait toujours froid, il vit dans un pays où il y a la neige, etc., il fait toujours froid. Et il sait que même pour salat al-dhuhr, il ne peut pas. Naam. Celui-là, donc, qui a fait déjà le taïmoum le matin, certains ulama ont dit ici, si bien sûr il est rentré par exemple aux toilettes, etc. entre temps, celui-là ici, il commence à faire les ablutions. Certains ont dit, il commence à faire les ablutions, ils ont dit, parce que le tayammum a levé la janaba. La janaba maintenant, elle est levée jusqu'à ce qu'il se lave. Mais en allant uriner par exemple, la janaba n'est pas revenue. Mais ce qui est revenu, c'est quoi? C'est le hadith al-asghar. C'est le petit hadith. Donc pour cela, il va terminer ses salats en faisant quoi? En faisant les ablutions. En faisant les ablutions. Certains ont dit comme ça, et d'autres ont dit, il termine avec le tayammum. Et d'autres disent, il termine avec le tayammum. Et moi, je n'ai pas encore un avis, il y en a très clair dans celle-là, dans cette chose. C'est pour ça que des fois je fais cette chose et des fois je fais l'autre. Non. Des fois, c'est le plus yani, auquel je penche plus, c'est le fait de faire des ablutions. Le fait de faire des ablutions après le tayammum, après le premier tayammum, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce que je puisse me laver. Non. Mais certains ont dit le dadil ici yani, n'est pas très clair. On préfère marcher avec le tayammum. Ma soeur, elle n'a pas de maladie très grave. Elle est vraiment fragile. Naam, elle est vraiment fragile. Maintenant, si elle se lave, elle peut tomber malade. Je ne parle pas de maladie très grave. Naam, elle peut tomber malade du froid, etc. Naam, je suis en train de parler de ce cas. Je suis en train de parler de ce cas. Mais cela dépend. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Naam, la fragilité du froid, cela dépend d'une personne à une autre. C'est quoi exactement la fragilité du foie? Hassassiya. Elle a dit ici, on me dit en whisper, on me dit hassassiya. Naam. J'ai dit, c'est comme la sinusite. Quelqu'un qui a la sinusite, il ne peut pas se laver à chaque janaba. Surtout en hiver. En été, il peut. En hiver, il ne peut pas. De toute façon, comme on dit les ulama, ils ont dit, ça, c'est la personne elle-même qui le sait. Des fois, une personne a une petite blessure et a très mal. Et quelqu'un a une grave blessure, il n'a pas mal. Ils ne sont pas de mots. C'est la personne elle-même qui sait quand est-ce qu'elle peut employer le tayammum ou elle ne peut pas. C'est elle qui sait si elle va tomber malade ou elle ne va pas tomber. C'est elle qui sait si ça va avoir des effets néfastes sur elle ou pas. Deux sœurs ou les deux frères qui ont le même père et la même sœur, des fois le jugement diffère. Pour cette personne, c'est possible. Pour la deuxième personne, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que chaque personne a yani, quelque chose de propre à elle. Non. Personne ne ressemble à l'autre. Dans la force, dans la puissance, dans la faiblesse, dans tahammul, adam tahammul, et comme ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il sait d'elle que non, elle a peur et qu'elle ne peut pas et qu'elle a essayé, c'est difficile, etc. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la permission. Inch'Allahu ta'ala. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mais pour la vie le plus sûr, si yani, elle continue avec le tayammum ou elle passe aux ablutions, je vous donnerai inshallah ta'ala dans le prochain das. Muslim ou mu'minun, naam, a été déloqué, cette personne ne vient la main depuis 25 minutes, il ne sait plus à quelle place elle était. Naam. Pour que je la mette à sa place, il faut qu'elle sache où elle était. Quand quelqu'un veut que je le rende à sa place, il faut qu'il me dise, j'ai été appris. Salam alaikum wa rahmatullah. Fais saute. J'étais déconnecté. Naam. J'étais déconnecté. C'était le tour de qui? Naam. C'était le tour de qui? Maintenant, j'ai dans la tête de liste Abu Kabir, 99. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avant lui, avant que je ne sorte? Ou là, c'était lui. Abu Kamila, alhamdoulilah. Abu Kamila, tafadhal. Abu Kamila, écrit numéro 1. Il n'est pas passé, certes. Non, il n'est pas passé le message. Taïb. N'écris pas plus de 5 lignes, Baraklov, 4 lignes. Tu colles seulement 4 lignes. Non. Je ne vois rien. J'attends, inshallah ta'ala, Tu as terminé, cri numéro 1, Jazakallahu khair. Abu Kabila, tu as terminé. Une personne a fait la salat de l'istikhara pour se marier. Ensuite, trouve des difficultés de toutes parts. Comment savoir si c'est une réponse négative? Combien de temps doit-elle patienter pour prendre sa décision? Naam. Il n'y a pas à cette réponse quelque chose, yani, comme ça, disons, de, yani, quelque chose très clair. Naam. On peut faire la salat istikhara, avoir des difficultés, et ensuite la chose marche. Si après les difficultés, quand même, tu as tenu aux difficultés et ça a marché, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cette chose. Naam. Car ce n'est pas toujours yani, la difficulté qui est le délil que yani, cette chose ou cette personne ou là n'est pas bien. Je vous donne un exemple très simple. Là, un exemple très simple. Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'il va vous aider à comprendre. Regardez. Lorsqu'une fois, ici au Koweït, lorsqu'une fois, il y avait une voiture qui m'a plu, j'avais voulu l'acheter. Je suis d'abord allé la voir. Ensuite, j'ai fait l'istikhara après l'avoir vue. Ensuite, je suis allé l'essayer. Quand je suis monté dans la voiture pour l'essayer, on a envoyé avec moi quelqu'un. Yanni, pour que on ne sait jamais que je peux enlever des pièces, etc. Bien sûr, ils ont, la société envoie quelqu'un avec toi, assis à ma droite. Quand on a marché peut-être un kilomètre, j'ai entendu déjà dans le moteur quelque chose, yanni, comme l'eau. L'eau qui commençait à bouillir tellement ça faisait chaud. Ensuite, toute l'électricité de la voiture ne marchait plus, c'est-à-dire ni les fenêtres, ni rien. Ensuite, on s'est arrêté, on a ouvert le capot et l'eau a commencé à gicler, à sortir, très très chaude bien sûr, et une eau très rouge, yani souillée, comme de la souillure, là, subhanallah l'azim. Et ensuite, je regarde par en bas, au-dessus de la voiture, il y a, subhanallah l'azim, au-dessus de la voiture, il y a l'eau aussi qui coule, subhanallah l'azim. On a attendu jusqu'à ce que vienne le mécanicien, etc. El Mohim, cette voiture, et subhanallah l'adim, je l'ai acheté. Donc quelqu'un dira, subhanallah, peut-être un autre dira, j'ai fait l'istikhara, maintenant j'ai vu cette eau qui coule, etc. Donc ça, cette voiture, c'est une mauvaise affaire et ça ne va pas marcher. Et malgré cela, alhamdoulilah, ça a marché et ce fut une bonne affaire et la voiture est toujours avec moi, et masha'Allah. Naam. Je veux dire que des fois on a des difficultés, mais ça marche. Yani on saute sur les difficultés, ça marche. Mais si tu veux sauter des difficultés et ça ne marche pas, ça veut dire khlas, la chose est partie d'elle-même. C'est pour ça qu'il est permis de faire la salat istikhara. On peut la refaire deux, trois fois, comme a fait Abdullah ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhu, le hadith est dans Bukhari, Fath al-Bari. Quand il a voulu détruire la Kaaba, Abdullah ibn Zubayr, radiallahu ta'ala anhuma, a voulu détruire la Kaaba pour la reconstruire. Il a dit, trois nuits, il a passé trois nuits à faire salat istikhara. C'est-à-dire, il l'a fait au moins trois fois. Jusqu'à ce qu'il a senti l'apaisement dans son cœur. Pas toi, de temps en temps, refais cette salat. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvrira ton cœur et tu vois que les choses, il n'y a plus d'entrave. Classe, les difficultés sont parties et elles-mêmes, alhamdoulilah, ça commence à marcher. Si tu vois que tu as tout essayé et ça ne marche pas, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Ranusha 92. Tafazzal ou tafazzali. Alhamdoulilah. Barakallahu fik. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Il y a une sœur qui doit se marier depuis 4 mois, mais à chaque fois, sa mère met des obstacles à cause des traditions d'ordre financier. C'est son frère qui lui sert de tuteur depuis le décès de son père. Doit-elle attendre que sa mère arrête de faire obstacle? Doit-elle le droit de se marier malgré elle? Naam. C'est terminé, Ranoucha, c'est terminé? Naam. Alhamdoulilah. En principe, une femme, quand elle se marie, c'est entre elle et son tuteur. Naam. Si elle accepte, et son tuteur accepte, il la marie, sa mère n'a rien à voir dans ce mariage. Mais, nous, on ne voudrait pas qu'elle rompe, yani, les relations avec sa mère. C'est pour ça que on souhaiterait qu'elle patiente un peu, qu'elle endure pour gagner deux choses à la fois. Elle gagne le mariage et elle gagne sa mère. Car sa mère, si elle se marie sans elle, sans son avis, qu'est-ce qu'elle risque? Elle risque de la renier. Elle dit, celle-là, elle n'est plus ma fille. Et elle ne va plus lui parler toute sa vie. C'est possible. Donc, pour ne pas perdre sa mère, quand même, qui a souffert à cause d'elle, elle a fait grandir, etc., elle va endurer et faire beaucoup de doigts. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir son cœur et de l'aider à ce qu'elle, à ce qu'il, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il yani, éloigne de lui les obstacles. Naam. Et elle parle un peu à sa mère, elle lui fait un peu la morale, elle fait venir sa tante pour lui parler, comme ça. Naam. Elle dit à la voisine, parle un peu à ma mère, etc., et comme ça. Indirectement, bien sûr. Naam. Mais elle ne doit pas, yani, rentre avec sa mère, sauf si bien sûr sa mère lui dit par exemple je te marie pas, tu vas rester avec moi, tu vas faire le ménage toute sa vie, c'est pas la peine que je te marie. Là, elle se marie même si sa mère ne lui parle pas ou la renie. Et dans un cas pareil, si elle peut gagner les deux, elle essaye, inshallah ta'ala, asa Allah subhanahu wa ta'ala an yahdiyaha wa an yiftaha ala ukhtina bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Oum Abdelhaq, si tu es là, lève ta main, inshallah ta'ala. Oum Abdelhaq, si tu es là, lève ta main ou dis-moi où tu es. Place, je te vois. Tafadzali. Mohamed 0504, une seconde, barakallahu fik, parce que Oum Abdelhaq était juste avant toi. Jazakallahu khayran. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Que Allah vous récompense pour votre patience. Je vous dis, quiconque a perdu sa place, qu'il me dise, il était derrière qui, c'est tout. S'il ne me dit pas, je ne peux pas le mettre n'importe où. J'ai peur de faire du tort à des gens. Chacun qui est dans la liste, il voit qui est avant lui, c'est tout. Qui est avant lui. Disons, je disais, hein, que pouvez-vous conseiller à une sœur qui doit faire une muqabala? Quelles questions doit-elle poser? Quelles questions peut-elle mettre? Barakallahu fikum. Naam. En principe, vous allez voir dans le prochain dars, Inch'Allah ta'ala, car le prochain dars parle de quoi? Parle de, justement, la muqabala. Le prochain dars, il parle de qu'est-ce qu'on fait dans la muqabala, etc. Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou. Allah yarhamou Cheikh bin Uthaymin, est de l'avis de ceux qui disent que la femme dans la muqabala, elle n'a pas le droit de parler avec l'homme. Cheikh bin Uthaymin, Allah yarhamou, a dit dans la muqabala, la femme n'a pas le droit de parler avec l'homme. Il la voit, c'est tout, et elle le voit. En mohim. Nous, inshallah ta'ala, on respecte cet avis. Mais si on ne prend pas de cet avis, on prend de l'avis des autres qui disent qu'elle peut parler, alors ceux-là ont dit, elle ne parle que dans les choses nécessaires. Ce n'est pas, il s'assoit et il discute. Non, ce n'est pas, il s'assoit et il discute, comment vas-tu, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que je t'achète, où on va habiter, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu fais le samedi, tout ça c'est interdit. Naam, il la voit seulement. Si jamais elle doit parler seulement dans des choses yani, nécessaires. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, ma condition c'est que yani, je n'ai pas de co-épouse. Ma condition c'est que je n'habite pas chez tes parents. Ma condition c'est que ceci, cela. Naam. S'il n'y a pas c'est des conditions, etc., c'est pas la peine qu'elle parle. Si elle veut parler aussi, elle peut parler par exemple, si elle ne connaît pas son minhaj ou dans la aqida. Naam. Elle peut parler par exemple, est-ce que je peux savoir par exemple, quels sont les livres que tu lis, par exemple. Ou là, yani, quels sont les ulama que tu suis. Ou là, juste pour tester, yani, c'est quoi le minhaj. Mais ce n'est pas pour discuter et plaisanter et rire. Naam. Donc, qu'est-ce qu'elle doit poser cette sœur? C'est d'après les conditions qu'elle a. Moi, je ne les connais pas. Non. D'après les conditions, si elle ne veut pas habiter chez ses beaux-parents, si elle veut faire la hijra, si elle pose comme condition, c'est qu'on fasse la hijra cette année. Est-ce que tu acceptes ou pas? Et comme ça. Non. C'est à elle, inshallah ta'ala, de réfléchir à ce qu'elle doit penser. Et l'essentiel, c'est quoi dans tout ça? C'est qu'il soit dans le din. La salat à la mosquée, etc., sont bonnes pour poser un équilibre avant le mariage. Naam, c'est pas grave. Naam, c'est pas grave si elle parle de la salat à la mosquée. Naam. Ou si elle parle, yani, je voudrais que tu sois du genre qui mettent le qamis, par exemple, qui ne l'enlève pas, etc. Naam. Ce sont des gens, ce sont des choses dont elle peut parler. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Mohamed 504, c'est un fadlan. Cela dépend, comme j'ai dit, d'une sœur à l'autre. Naam. Chacune a ses propres conditions et yani, son propre mode de vie, disons. Fiki barakla. Assalamu alaikum. Comment s'appelle le livre que vous utilisez pour ce cours? Dans quel cas le mariage est détestable? Est-ce que le cas où les droits de la femme ne sont pas satisfaits? Barakla. Le livre, je l'ai dit, il s'appelle Sharh al-Mumti'a. De Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah. Al-Sharh al-Mumti'a de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, et il explique Zad. Non, il explique Zad de Al-Hajjawi, Zad Mustaqni' de Cheikh Al-Hajjawi alayhi rahmatullah. Et ce livre en arabe se trouve sur internet. En arabe, il se trouve sur internet. En français, je ne l'ai pas vu. Dans quel cas le mariage est détestable. Naam, le mariage est détestable, il est même haram. Il est même haram. Qu'est-ce que tu veux dire par détestable? Est-ce que tu veux dire haram? Mohamed 504, qu'est-ce que tu veux dire par détestable? Est-ce que tu veux dire haram, etc.? Réponds-moi, Inch'Allah. Non. Pas haram, à éviter. Ah, makrouh, makrouh, naam, naam. Je comprends, naam, makro. Regarde la fois passée. Voilà, la fois passée. Dans le dars, quand on a parlé de ahkam, zawaj, on avait dit que il devient détestable. Regarde ici ce qu'a dit le Sheikh. Hein. Regarde ce dont je vais te lire. Il est détestable. Li faqirin la shahwata lahu. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, par exemple, qui en même temps n'a pas de tentation. لأنه حينئذ ليس به حاجة. نعم, il n'a pas de tentation. Pourquoi il veut se marier celui-là? En plus de ça, il dit, il est pauvre. نعم. Donc il va avoir beaucoup de problèmes. نعم. Ici, quand je dis il n'a pas de tentation, ça veut dire, disons que ses tentations, نعم, pauvre. نعم. Ses tentations sont faibles, etc. Celui-là, et en plus il n'a pas d'argent, il est makro pour lui, pour qu'il se marie. Comme ça a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Naam. Car il a dit, car la femme, si elle est riche, elle n'est pas intéressée par le fait qu'il dépense ou qu'il ne dépense pas. Naam. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est riche. Mais donc, elle sera lésée. Elle sera lésée. Pourquoi? Parce que cet homme n'a pas de tentation. Naam. Ça n'a pas de tentation. Naam. C'est pour ça que si celui-là se marie, il doit dire que, par exemple, j'ai pas de tentation, comme j'ai dit tout à l'heure. Naam. Ensuite, tu as posé la question de est-ce que le cas où les droits de la femme ne sont pas satisfaits? Naam, ne sont pas satisfaits, naam, comme tu as dit, naam. Mais si quelqu'un ne peut pas dépenser pour sa femme, par exemple, pour la faire vivre, celui-là, il lui est interdit de se marier. Il est haram pour lui qu'il se marie, ensuite, il n'a pas de quoi lui faire manger, par exemple. Il n'a pas de quoi lui acheter des vêtements. Il n'a pas de quoi lui donner les choses nécessaires matérielles. Surtout le manger, le fait de s'habiller, etc. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sauf, bien sûr, sauf si lorsqu'il s'est marié, il avait ses choses, ensuite il est devenu pauvre. Naam, il s'est marié, il avait ses choses, ensuite il est devenu pauvre. Il a perdu son travail ou on lui a volé son argent, etc. Non. Abu Muslim, tafadhal. Écris mon numéro 1 si tu es là, Abu Muslim, l'Aïjazik. Si tu es là, écris mon numéro 1. Pour savoir que tu es là, Abu Muslim. Alhamdulillah. Pose ta question, ou bien si c'est le micro, tu écris mic. Abu Muslim, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il est Abu Muslim, je croyais qu'il était dans une muqabala. Je dis peut-être qu'il est parti faire une muqabala celui-là, il m'a oublié. Salam alaikum, je voulais savoir par rapport à votre nasiha. Je vois qu'ici Abou Muslim, quelqu'un à votre nasiha pour des frères qui donnent des cours sur Paltok sans avoir étudié chez un cheikh. Vous avez dit qu'ils peuvent lire les livres mot à mot, en sachant qu'au fur et à mesure du temps, ils vont te rapporter le livre. Non, quand tu termines, Inch'Allah Ta'ala, tu écris numéro 1. Non. Inch'Allah, une seconde, je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abou Muslim, est-ce que tu m'entends? Alhamdulillah. Donc, je vais relire. Je voudrais savoir, par votre nasiha, les frères, non, par rapport à votre nasiha, pour les frères qui donnent des cours sur Paltok sans avoir étudié chez un cheikh. Vous avez dit qu'ils peuvent lire les livres, non, mot pour mot, en sachant qu'au fur et à mesure du temps, ils risquent de rapporter leur idée. Ils ne vont pas lire, non, ils ne vont pas lire que les livres, c'est impossible. Et aussi que les frères qui traduisent les livres compliqués, même très compliqué. Ils font des questions-réponses à la fin du cours en rapport au sujet, tout en sachant que les frères n'ont pas étudié chez un cheikh. Qu'en pensez-vous? Barakallahu fikoum, hayakumullah. Naam. Je t'avais répondu à cette question, Inch'Allah Ta'ala. Je t'avais répondu, je ne sais pas si c'est à toi ou à un autre qui m'avait posé la question. J'avais répondu la fois passée. C'était à vous, Abou Maryam. Naam, j'ai répondu à toi. Je ne sais pas à qui j'avais répondu. Avant de répondre, j'avais dit que, avant que je ne donne mon avis, je préférais quoi? Je préférais, Inch'Allah Ta'ala, demander l'avis d'autres. C'est pour ça que j'ai contacté le cheikh Abdelmalik Ramadani, Hafidhahullah, et je vous avais dit ce qu'il m'avait dit. Non, je vous avais dit ce qu'il m'avait dit, mais après cela, on m'a rapporté que le jour où je répondais, c'est-à-dire je crois samedi passé ou je ne sais pas quand, le jour où je répondais, on m'avait dit qu'il y avait sur les repères de la Sunna, Cheikh Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah, et qu'on lui avait posé la même question. On lui avait posé la même question et qu'il a dit que, yani, Wallahu ta'ala alam, ça se divisait en deux. Naam, il y a ceux qui n'ont pas étudié chez les chouyours qui font les doros et il y a ceux qui lisent seulement un livre. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Et on m'avait dit aussi qu'il y avait Cheikh Ramazan auquel on a posé cette question, qu'il a dit que celui qui n'a pas étudié, s'il va lire comme ça des livres, naam, et expliquer, naam, puisqu'il n'a pas étudié, donc il risque de dire des choses qu'il a comprises lui, il a compris ces choses, mais qu'en fait les choses ne sont pas ainsi. Et je reviens à Cheikh Jabiri, Ubayd al-Jabiri, Hafidhahullah, on m'a dit que, il a dit que, yani, ce n'était pas possible à quelqu'un qui n'a pas étudié de faire des doros, surtout si c'est dans des choses compliqué. Naam. Mais moi, je vais donc redire ce que je dois dire. Quand je vous ai dit que quelqu'un pouvait lire du livre, je voulais dire par là, et même Cheikh Abdelmalik Ramadani Hafidhahullah, je lui ai parlé au téléphone, ça fait seulement un quart d'heure ou 10 minutes avant de commencer le cours. Naam. Il m'a dit, moi, quand j'ai dit cela, j'ai dit pour celui qui lisait mot à mot sans ajouter un mot et sans dire à la fin question-réponse. Naam, c'est quelqu'un qui doit faire comme un perroquet. C'est-à-dire, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il lit, point. Ensuite, il dit, il a dit, ta 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 ta, point. Il a dit, ça veut dire, il ne dit pas le cheikh a voulu dire, le cheikh voulait dire cela, c'est-à-dire ceci, c'est-à-dire cela. Et c'est plus grave si à la fin il dit, yani, poser des questions, yani, au cours. Là, ça devient encore plus grave. Naam. C'est pour ça que, yani, quand j'ai parlé du homme avec Cheikh Abdelmalik Ramadan, il m'a dit, c'est pas ce que j'ai dit. Naam. Ensuite, je ne vois pas pourquoi, yani, quelqu'un comme Cheikh Ramadan, et quelqu'un comme Ubayd al-Jabiri, Hafidhahumullah, il ne voit pas pourquoi il donne, par exemple, le jugement sur telle chose. Ensuite, moi je dis une chose et c'est des fois, ce n'est pas la même chose, c'est opposé. Je ne vois pas pourquoi ils prennent de moi et ils ne prennent pas des savants. Non, pourquoi vous prenez ce que j'ai dit moi, moi qui suis un simple petit talibel, non? Donc, yani, prenez de ce qu'ont dit les ulama, les grands ulama, non? Et je ne vois pas pourquoi vous allez prendre de ce que je dis moi, non? C'est pour ça que... Car la parole, non, moi je ne veux pas prendre la responsabilité, non, de dire à quelqu'un qui n'a pas étudié, non, de assieds-toi et commence à expliquer aux gens, alors que peut-être lui-même, il a cru comprendre les choses, alors que les choses ne sont pas comme il a compris. C'est pourquoi tous les ulama, tous les savants, non, durant toute yani, la période de l'islam, disons spécialement depuis l'apparition de l'imam Ibn Hazm, rahimahullah, qui est un grand imam, ils ont toujours été contre lui. Pourquoi? Du fait qu'il a étudié chez lui. Il a étudié, yani, autodidacte, tout seul, sans avoir recours au shuyukh. C'est pour ça que, regardez son fiqh, ça s'appelle fiqh al-zahiri. Yani, si on prend des choses, on ne prend que les hadiths sahih, on ne prend que les hadiths et les fatwas qui sont vraiment yani, claires. Sinon, yani, il a dit des choses vraiment, vraiment des choses yani, étranges, des choses bizarres. Je vous dis, si vous voulez, par exemple, ce qu'a dit Cheikh Ibn Hazm, comme chose bizarre, je vais vous dire par exemple, ce qu'il a dit. Regardez quelqu'un qui n'a pas étudié chez les chouyours. Il a dit, par exemple, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que si le chien lèche par exemple dans un récipient, vous devez le laver 7 fois, et la première avec quoi? Avec de l'eau. Naam. Dans un autre hadith, c'est dit la dernière fois. Al-Muhim. Donc le prophète alayhi wa sallam qu'a dit ici? Il a dit si le chien lèche, donc vous devez laver le récipient 7 fois, une fois avec une fois avec le torab, avec de la terre. Ibn Hazm, alayhi rahmatullah, qu'a dit ici? Il a dit, si le chien lèche, il a dit, le prophète Hashem a dit lèche, walara. Ça veut dire que si le chien urine dans le récipient, c'est pas la peine de le laver comme ça. Non, seulement s'il lèche. Subhanallah al-Azim. Alors que s'il lèche avec sa langue, on le lève 7 fois. Qu'en est-il s'il urine? Et lui, il dit non. Naam. Et il dit, par exemple, en ce qui concerne par exemple la femme où le prophète alayhi sallam a dit que la prétendante, on lui demande son avis, elle dit, et si elle se tait, ça veut dire qu'elle a accepté. Comme ça a dit le prophète alayhi sallam, a dit, le signe de son acquiescement et de son acceptation, c'est si son père ou le tuteur lui dit, X t'a demandé ta main, elle se tait. Il a dit, si elle se tait, ça veut dire qu'elle a accepté. Donc, moi je vous pose une question. Si elle se tait, elle a accepté. Que pensez-vous de si elle répond, si elle dit, d'accord, j'ai accepté. Est-ce que c'est accepté ou c'est pas accepté? C'est accepté, c'est encore plus clair. Ça, Ibn Hazm a dit non. A dit, le prophète a dit, si elle se tait, c'est accepté. Ça veut dire, si elle parle, elle dit oui, ça veut dire c'est non. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-Muhim. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Al-Muhim. Maintenant, le dernier mot que j'ai à dire, c'est que de préférence, ils évitent. Naam, c'est de préférence, ils évitent. Ils doivent lire les livres déjà traduits. Naam. Ils doivent lire les livres déjà traduits. Si j'ai dit, il ne traduit pas, il lit seulement avec point virgule, point d'interrogation, point de suspension, point. Il ne dit pas, il a voulu dire. Voilà le sens. Qu'en dites-vous? Avez-vous des questions? S'il lit seulement comme quelqu'un qui va lire sans comprendre. Je vais ramener quelqu'un qui a 5 ans, qui ne comprend rien. Il sait seulement lire. Et je lui dis, lis-nous ce livre. si ceci fait à cela, il n'a rien fait de haram. Naam. Ensuite, pourquoi par exemple les frères et les sœurs, comment faire pour savoir? Comment faire pour savoir? Naam. J'entends ce quelqu'un. S'il est en train de lire, c'est tout. D'accord? Si le frère lit le livre mot à mot. Naam. On ne peut pas savoir si on n'a pas le livre. On ne peut pas savoir si on n'a pas le livre. Naam. Mais s'il commence à dire, par exemple, voilà le sens et en islam c'est ceci, cela, tu sens qu'il est sorti du livre. Tu sens qu'il est sorti du livre. Ou bien s'il te dit, pose-moi des questions. Naam. Moi, je voudrais dire une autre chose. Naam, je voudrais dire une autre chose. Pourquoi, par exemple, les frères et les sœurs qui veulent, par exemple, ouvrir des salles, etc., pourquoi, par exemple, qu'ils n'ouvrent pas des salles pour, naam, pour retransmettre des cours? Naam. S'il y a des cours, mashallah, pourquoi vous les ne pas les retransmettre dans votre salle? Ou bien, par exemple, pourquoi ne pas faire passer des cassettes de ulama? Naam. J'ouvre une salle, naam, je l'appelle par exemple cours de Cheikh Ibn Uthaymin, par exemple. Et, mashallah, je vais passer des cassettes, l'une derrière l'autre. Une cassette, elle se termine, je mets l'autre. Je mets le titre dans la bannière et comme ça. Tu auras des ajr, des récompenses pour avoir aidé à ce que ce din yani, se retransmette, mashallah. Tu auras aidé. Pourquoi? Pour que le din se retransmette, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. On va passer, Inch'Allah, à autre chose parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Qamis, Defa, tafadban. Qamis, si tu as terminé, écris numéro 1. Barakallahu fik. Naam. De manière générale, un frère demande, de manière générale, d'abord, wa alaykum salam, wa barakatuh. De manière générale, quand il part en voyage en famille, peut-il déposer sa femme chez une sœur et continuer son voyage? Naam, s'il la dépose dans une maison où il n'y a pas de fitna, naam, ce n'est pas interdit. Naam, s'il dépose sa sœur chez une sœur où il n'y a pas de fitna, il n'y a pas de fitna dans cette maison, et c'est que, Inch'Allah ta'ala, il connaît que c'est une sœur qui applique, Masha'Allah, il peut laisser sa femme chez elle, ce n'est pas interdit, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a rien qui interdit cela. Naam, Inch'Allah ta'ala. Abu Abdurrahman, tafadlal. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce que dans l'islam, c'est permis qu'un imam peut marier un musulman avec une femme qui ne reconnaît pas l'islam et qui n'accepte pas la shahada? Et que dans... Est-ce que dans le din, peuvent-ils faire le halal et se couple en des enfants? Est-ce que l'imam peut marier un musulman avec une femme qui ne reconnaît pas l'islam, qui n'accepte pas la shahada? Naam, l'imam peut marier un musulman avec une femme qui est chrétienne ou juive, c'est tout. Si la femme n'est ni musulmane, ni chrétienne, ni juive, cet imam ne peut pas la marier avec cette femme. Car en islam, il n'est permis de se marier qu'avec une musulmane, une juive ou une chrétienne. Donc, quant à une athée qui ne croit pas, il dit qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, celle-là, il est interdit en islam de se marier avec elle. Naam. Tayyib. Sabahuna tafazzal. Quelle est la valeur d'un mariage contracté alors que la fille est déjà illicitement enceinte? L'imam qui les a mariés n'était pas au courant, car les parents l'ont caché. Qui est responsable? Doit-il se marier pour être dans le halal? Quelle est la valeur d'un mariage contracté alors que la fille est déjà illicitement enceinte? Subhanallah. L'imam qui les a mariés n'était pas au courant. L'imam qui les a mariés n'a pas de péché parce que il ne savait pas. En principe, une femme qui est déjà mariée, si quelqu'un veut la marier, ce quelqu'un demande quelle est la dernière fois qu'elle a eu les règles pour savoir si, par exemple, elle n'est pas enceinte. Naam. Et maintenant ici, les parents ont caché à l'imam et peut-être que cette femme ne s'était jamais mariée, mais avait déjà un bébé dans son ventre Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Maintenant, le mari, celui qui l'a épousé, elle n'était pas mariée. Non, elle n'était pas mariée. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Qu'Allah préserve nos filles et nos sœurs et tout, yani, tout le monde, inshallah ta'ala. Tous les croyants. Tayyib. Maintenant, l'homme, quand il a su, ils ont fait zina, naam. Ils ont fait zina, mais il y a une autre personne qui l'a épousé. Sabahouna, pour que je comprenne bien, cette fille ou cette femme a fait zina avec quelqu'un, elle est tombée enceinte, et elle s'est mariée avec une autre personne. Ça, c'est pas avec cette personne. Dis-moi si c'est vrai. Si j'ai bien compris. Non, c'est le même homme. Subhanallah al-Azim, c'est le même homme. Moi, je croyais qu'il s'était marié avec un autre homme. Naam, quand quelqu'un, une femme, fait zina avec un homme, ils n'ont pas le droit de se marier, ils n'ont pas le droit de se marier jusqu'à ce qu'ils fassent la tauba, jusqu'à ce que les deux fassent le repentir. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, jusqu'à ce que la femme accouche. Pourquoi? Pour que les os ne se mélangent pas, c'est-à-dire les spermes. Car il y a l'eau qui est du haram, l'illicite. Ensuite, va y avoir le deuxième liquide. En islam, on appelle ça l'eau. Hein. Ensuite, va y avoir le deuxième liquide après le mariage, le halal. Il ne faut pas que les deux liquides, l'illicite avec le licite, ne se mélangent. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent s'arrêter jusqu'à ce que la femme accouche. Après l'accouchement, s'ils ont fait la tauba, ils peuvent se remarier. Naam. Quant à l'imam, il n'a aucun péché, incha'Allah ta'ala. Abu Hudayfa tafaddal. Abu Hudayfa tafaddal. Assalamu alaikum. Un homme dit, messager d'Allah, ou messager d'Allah, quel est le devoir d'un homme envers sa femme? Il répondit, de la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis, ne pas frapper le visage, et de ne pas critiquer son visage. Et que tu t'éloignes d'elle, et que tu ne t'éloignes d'elle que dans le foyer. Continue, Inch'Allah, quand tu termines, dis-moi. Tayyib. Pouvez-vous m'expliquer la dernière phrase? La dernière phrase, et que tu t'éloignes d'elle que dans le foyer. Naam. D'abord. Non, avant cela, non, quand tu, le hadith a dit, et de ne pas critiquer son visage. Non, en arabe, ça donne un tout'imaha ida ta'imt, wa taksuwaha ida ktasit, wa la tadrib l'ouch, ne pas frapper le visage, wa la tuqabbih. Je ne vois pas dans le hadith où c'est écrit critiquer le visage. Il a dit, wa la tuqabbih, wa la tahjur illa fil bayt. Même en la tuqabbih, c'est-à-dire de ne pas lui dire qabbahakillah, de ne pas lui dire cette phrase en arabe qabbahakillah, qabbahaki, yani tusbihin qabiha. Non, il ne faut pas dire cette phrase qabbahakillah, non, et que tu t'éloignes d'elle dans le foyer. Ça veut dire que si ça ne marche pas, il y a des choses, une mésentente, etc., ce n'est pas tu vas dormir chez, par exemple, des amis, ou là chez ta mère, ou là chez tes parents, et tu la laisses seule. Naam. Il a dit, la tahjur illa fil bayt. Ça veut dire, tu dors dans la même chambre, mais seulement, naam, tu dors dans la même chambre, mais seulement, tu ne fais pas les rapports conjugaux avec elle. Tu ne fais pas les rapports conjugaux avec elle. Naam. Mais tu ne vas pas aller chez, dans d'autres gens. Inch'Allah ta'ala. Allah a dit que Cheikh Amin. الله يحفظك امين جزاك الله خير بارك الله فيك مركان مكان 11 مكان 11 تفضلي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله j'aimerais savoir si le mari a le droit d'ordonner à sa femme d'aller voir les parents du mari sachant que c'est une tentation pour elle au niveau de la télé, musique, etc. et des médisances. Non. Est-ce que le droit est-ce que le mari a le droit d'ordonner à sa femme d'aller voir les parents du mari, sachant que c'est une tentation pour elle au niveau de la télé, la musique et la médisance. Naam, si le mari est compréhensif, naam, si le mari est compréhensif, normalement, il peut, par exemple, il peut lui permettre qu'elle leur parle seulement par téléphone, par exemple. Qu'elle leur parle seulement par téléphone et elle laisse les aller chez ses parents seulement dans la daroura. Seulement quand sa mère est malade, seulement par exemple le jour de l'Aïd, seulement quand il y a des choses, yani, vraiment on doit y aller. Non, pourquoi? Pour ne pas qu'elle fasse, yani, qu'elle rompe, pour qu'elle ne rompe pas les relations avec sa belle famille. Mais elle n'est pas obligée d'y aller quand il y a ces choses pareilles. Si elle peut, par exemple, si elle peut jeudi, elle rentre seulement pour 5 minutes, juste pour ne pas couper les relations. Comment allez-vous, etc. Alhamdoulilah, kadam, nam. Dès que ça commence, elle sent que ça va commencer la médisance ou là, elle dit pardon, je dois aller acheter des choses ou là. Auparavant, elle avait fait dans le projet que elle allait acheter des choses, etc. Elle dit maintenant, inshallah ta'ala, je dois partir, etc. etc. Nam. Mais elle n'est pas obligée de rester là-bas avec elle, qui sont en train de faire la médisance, qui sont en train de voir des choses qui ne sont pas bien à la télévision, etc., à la musique, etc. Il lui est interdit de rester, car le mari veut que la femme aide la mère. Naam, si elle l'aide de temps en temps, naam, c'est pas une premièrement, ce n'est pas une obligation pour qu'elle l'aide. Premièrement, ce n'est pas une obligation pour elle, pour qu'elle aide sa belle-mère. Si elle le fait, elle le fait pour avoir les hasanats, premièrement, et deuxièmement, pour plaire à son mari. Naam, pour yani, consolider les relations avec son mari. Son mari, c'est sûr que ça va lui faire plaisir qu'elle aide sa mère. Naam, qu'elle la seconde. Donc, si elle le fait, elle le fait seulement fi sabilillah, pour avoir des récompenses, mais à condition qu'il n'y ait pas de haram. Elle lui dit, moi j'aimerais bien aider ta mère, mais toi, fais aussi quelque chose. Dis-lui que ma femme n'aime pas venir à cause de la musique, à cause de ces choses. Éteignez au moins la musique. Naam. Ou alors si elle l'aide, elle peut l'aider dans la cuisine et la musique, par exemple, elle est ailleurs. Elle est dans le salon, là, dans l'autre chambre. Ce sont eux qui ont les péchés. Car toi, tu es allé seulement pour l'aider dans la cuisine. Donc tu es dans la cuisine, inshallah ta'ala, tu as des récompenses. Naam. Elle essaye de dire à son mari qu'il fasse lui aussi le devoir. D'accord, moi je vais faire cette chose pour Allah, en même temps pour toi, mais toi fais quelque chose avec tes parents. Dis-leur, ma femme, par exemple, n'accepte pas cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Islamia. Naam, normalement c'est terminé. Normalement l'heure, hein, le moment c'est terminé. Mais spécialement parce que demain j'ai pas de travail, je vais ajouter 10 minutes, inshallah ta'ala. Naam. Tafadla, les gens, inshallah ta'ala, ta question. 049 au Koweït. Naam, c'est ça. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maghfiratou. Que Allah vous récompense pour le temps. Naam. Alors, j'aimerais savoir que doit faire un homme si sa femme ne veut pas mettre le djilbab. Comment faut-il qu'il s'y prenne? Je pourrais avoir confirmation qu'il est préférable de ne pas se marier avec quelqu'un de sa famille. Qui l'a dit et d'où vient cette source pour essayer de le faire comprendre? Inch'Allah, pouvez-vous m'ouvrir votre PV? Barakallahu fikoum. Naam. Une seconde, inch'Allah ta'ala. Naam. Donc, la réponse pour un homme, yani, si sa femme ne veut pas mettre le djilbab, comment faut-il qu'il s'y prenne? Naam. Il s'y prend d'abord avec sagesse. D'abord avec sagesse. Il essaye au maximum yani, de l'attirer et d'épancher son cœur en lui disant « Wallah, je t'aime beaucoup, tu es tout ce qui est plus cher pour moi, etc. » Fais seulement le djilbab, mets seulement le djilbab et je t'aimerai encore plus et je te mettrai sur ma tête et je te donnerai tout ce que tu veux, etc. etc. Il commence par essayer, comme j'ai dit, de l'attirer, etc. Maintenant, si après un certain temps ça n'a pas marché, il va à l'opposé. Il commence à la menacer. À la menacer et à yani, ne pas manger avec elle, etc. Être toujours en colère, etc. Il dit, moi, une femme qui ne met pas le djilbab, j'en ai pas besoin d'elle, etc. Naam. Si, dans le deuxième cas, ça ne marche pas aussi, naam, il est libre alors s'il veut la divorcer. Naam. S'il sait que yani, il n'est pas très attaché à elle et qu'elle ne va pas changer, c'est le genre qui va sortir comme ça dans la rue en montrant ses cheveux, etc. Cette femme, donc, yani, il n'y a pas beaucoup, yani, cette femme ne contient pas de bien. Car si elle contenait le bien dans son cœur, elle aurait d'abord obéi à Allah, et deuxièmement, elle aurait obéi à son mari. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à une femme, qu'est-ce qu'il lui a dit? En parlant de son époux, il lui a dit, c'est ton feu et c'est ton paradis. Il lui a dit, ton époux, c'est ton paradis et c'est ton feu. Ça veut dire, si tu veux rentrer au paradis, obéis-lui. Si tu veux rentrer en enfer, alors désobéis. Désobéis à ton mari. Naam. Donc c'est comme ça, inchallah. Il commence par étape après étape. La première étape, il commence à l'attirer en lui achetant des cadeaux, en lui disant, je te ferai ce que tu voudrais, inchallah ta'ala. Naam. Naam, il a le droit de se marier une deuxième femme sans la divorcer. Naam, il a le droit de se marier avec une deuxième sans la divorcer, mais reste le problème de quoi? Le problème de quand elle sort dans la rue. Quand elle sort, maintenant, si elle sort mutabarrija, si elle montre ses cheveux, etc. Dans ce cas, c'est lui quoi? C'est lui qui a les péchés. Pourquoi l'avoir laissé sortir? Et peut-être il ne la commande pas, elle sort, etc. Donc c'est lui qui a les péchés. S'il sait que elle doit sortir et ne peut plus la retenir, et qu'elle sort comme ça en montrant ses cheveux, etc., dans ce cas, il la divorce. Il la divorce pour qu'il ne prenne pas les péchés. Mais si elle est, quand elle sort dans la rue, elle est cachée, etc., et qu'il veut la garder, avec l'espoir qu'un jour, peut-être, elle va changer, il la garde. Elle a un voile, petit foulard. Non, un petit foulard, ça ne suffit pas, le petit foulard. Non, ça ne suffit pas. Mais il peut la garder en lui faisant la nasiha, etc. Non, en lui faisant la nasiha, etc., en faisant beaucoup de doigts, pour Allah subhanahu wa ta'ala l'aide, naam, surtout s'il a des enfants avec elle. Naam. Diag 59, tafadhal. Ah, naam, Abu Maryam, sah, jazakallahu karam, naam, sah. Naam, si j'oublie, Abu Maryam, si j'oublie, rappelle-moi après Diag, si j'oublie. Salam alaikum, wa alaikum salam. Si par exemple un mari pense que le niqab est obligatoire et que son épouse suit l'avis de Cheikh Al-Albani, est-elle obligée de suivre l'avis de son mari selon la règle qu'elle doit lui obéir tant qu'elle ne désobéit pas à Allah? Naam. C'est une question qui est très bien, inshallah ta'ala, diag 59, et qui mérite d'être posée. Et qui mérite, inshallah ta'ala, d'être posé au ulama. C'est pour ça, inshallah ta'ala, je te répondrai mercredi prochain. Je vais l'écrire, c'est tout. Je vais l'écrire, inshallah ta'ala, naam, pour te répondre, inshallah, mercredi prochain. Naam. Femme, naam, convaincue, attends. Naam. Naam. Fika barakallah. Firdaus, 13105. Firdaus, tafadhal. Le frère, 78000, Ibrahim, et après Diag. Il s'est déconnecté. Naam, où est-il maintenant, Ibrahim? D'accord. Astaghfirullah, tu voulais. Naam, Diallo m'avait posé une question. Une seconde, je suis pas marié. Non. Je dis que Diallo m'avait posé la question de est-ce qu'on pouvait entendre les cassettes, est-ce qu'on pouvait entendre les cassettes de quelqu'un, un Égyptien qui est mort, l'Ayahmo qui est mort, qui s'appelle Abdelhamid Kishk. Non. Abdelhamid Kushk, ou bien Kishk. C'est un Égyptien qui est mort, comme j'ai dit, ça fait quelques années. Il dit, est-ce qu'on peut écouter les cassettes de celui-là? La réponse, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là, naam. On ne peut pas écouter les cassettes de celui-là, bi'idhnillah azza wa jal. On ne peut pas écouter ces cassettes sauf si on a un but spécial, un but spécial. Mais si c'est pour écouter, pour prendre des avantages, etc., on ne peut pas. Parce que celui-là, Abdelhamid Kishk, qui est mort, celui-là avait beaucoup d'erreurs dans son din. Premièrement, il avait des erreurs, par exemple, de citer beaucoup, beaucoup de hadiths qui étaient ou bien faibles ou bien forgés. Pas vrai du tout. Naam. Quand il cite 10 hadiths, quand il cite 10, 8 ne sont pas authentiques. Naam. 8 sont ou bien faibles ou bien forgés. Ça, c'est le premier mal qu'il avait. Le deuxième, c'est que il avait un peu l'habitude dans ses doros des soufis. Hein? Sur le mimbar, il dit, les autres répètent avec lui tous, Allah, Al-Hamid, Al-Aziz, Al-Rahim, Al-Ghafour, il lui pose des questions, Man al-Rahman, ils disent Allah, Man al-Rahim, ceci, ça ne l'a fait ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les compagnons, ni les ulamas. Et plus grave que cela, il parle sur le mimbar, il parle et il incite les gens contre les gouverneurs. Sur le mimbar, il va te parler du président de la République X, il va le citer avec son nom et te citer tous les défauts qu'il a. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un veut parler ou a quelque chose à dire au gouverneur, qu'il aille chez lui en tête à tête et qu'il prenne sa main et qu'il lui fasse la nasiha. S'il a accepté, alhamdoulilah, s'il n'a pas accepté, tu as fait ton devoir. Donc, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas parler du gouvernement, du gouverneur et du président de la République sur le mimbar. Mais c'est d'aller chez lui ou de lui écrire une lettre si tu ne peux pas aller chez lui. Donc, il est très très déconseillé de suivre, d'écouter à ce Abdelhamid Kishk, parce que le mal qu'il y a dans ce qu'il dit est beaucoup plus nombrable et beaucoup plus que les biens qu'il y a dans ces doros. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Firdaus, as-tu posé la question ou tu ne l'as pas posé? Naam. Assalamu alaikum. Qu'en est-il d'une personne qui décide de ne plus avoir d'enfants car elle dit c'est pour leur éviter les fitnas de ce bas monde? Qu'en est-il d'une personne qui décide de ne plus avoir d'enfants car elle dit que c'est pour leur éviter les fitnas de ce bas monde? Naam. Cette personne qui pense cela se trompe et s'est beaucoup trompée. Naam. Naam. Elle a une bonne intention, elle croit avoir une bonne intention, mais en fin de compte, c'est faux ce qu'elle pense. Pourquoi? Parce que, premièrement, en ayant des enfants, tu as obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as des récompenses. Tu es la cause de la fierté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu as suivi son hadith, masha'Allah. Naam. Il est une heure au couette. J'arrête, inshallah ta'ala. Naam. Et deuxièmement, personne ne connaît ce qui va se passer à cette personne. Peut-être cette personne de laquelle toi, tu as peur qu'elle tombe dans la fitna, peut-être que cette personne va être un grand savant et qu'elle va vivre en Arabie Saoudite ou là je ne sais pas, où il n'y a pas aucune fitna. Naam. Alors que maintenant, toi, en n'ayant pas d'enfant, tu as quoi? Tu as été la cause pour que cet enfant ne soit pas un grand savant. Alors que peut-être il allait être un grand savant ou quelqu'un qui allait aider beaucoup les musulmans, etc. Donc, dire je ne vais pas avoir d'enfant à cause que j'ai peur de la fitna, ça, ce n'est pas vrai. Mais ça, c'est le shaitan qui le dit comme ça. Le shaitan, il voudrait qu'il n'y ait pas beaucoup de musulmans. Hein, et il dit, essaie de ne pas avoir beaucoup d'enfants. Alors que, toi, tu essaies d'avoir des enfants, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va les préserver. Toi, tu fais des doigts, et Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, Ibrahim, puisque je t'ai oublié, tfadzal, Ibrahim, 78200, tafadzal. Fiki barakallah firdaus. Tafadal Ibrahim. Continue, inshallah, la question écrit numéro 1. Naam. Salam alaykoum, salam alaykoum. De ce que je sais, il est permis à un homme d'épouser l'ex-femme de son fils adoptif. Naam, ça c'est vrai. L'inverse, est-il permis, c'est-à-dire que le fils adoptif épouse l'ex-femme de son père adoptif. Naam, naam. Un fils adoptif, les deux sont étrangers par rapport à l'autre. Le fils adoptif est étranger à l'homme, à sa femme, et celui qui a adopté cet enfant est étranger au fils adoptif et à sa femme, à condition que le fils adoptif n'allaite pas de la femme de celui qui l'a adopté. Bien sûr, à condition que le fils adoptif n'allaite pas de la femme qu'il a adoptée dans les deux années, les premières années, au moins cinq fois. Au moins cinq fois. Ibrahim, est-ce que tu as compris, Inch'Allah Ta'ala? Est-ce que tu as compris? La femme doit-elle se cacher d'elle? De qui d'elle? La femme doit-elle se cacher d'elle? De qui d'elle? J'ai pas compris. Ben, de lui. Naam, quand il devient pubère, si elle l'a adopté, Naam, son fils adoptif, qui est devenu pubère, si elle n'a pas allaité pendant cinq fois au moins, dans les deux ans, elle doit mettre le khimar devant lui, se cacher devant lui, et ses filles à elle aussi doivent se cacher devant lui, et personne, aucune des femmes n'a le droit de rester en tête à tête avec lui. Et la même chose pour une fille adoptive. Si quelqu'un adopte une fille, si la femme de ce quelqu'un qui a adopté cette fille ne l'a pas allaitée pendant les deux années, cinq fois, Naam, quand cette fille devient pubère, elle doit se cacher de son père adoptif et de ses frères adoptifs. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, samedi dans Islam, pas en Europe. Sauf si je ne peux pas. Si je ne peux pas ouvrir ma salle samedi en Europe, en Islam, ça veut dire que le prochain dars sera en Europe. C'est pour ça, laissez cette salle, laissez-la en favorite. Comme ça, si vous cliquez dessus, vous cliquez sur, comment ça s'appelle l'autre salle, apprendre l'islam, ça ne s'ouvre pas. Vous cliquez sur celle-là, vous rentrez directement, Inch'Allah Ta'ala. Pour Abu Maryam, qui veut un PV avec moi, je voudrais lui dire que, Inch'Allah Ta'ala, demain, quand je rentre, Inch'Allah Ta'ala, je passerai avec toi en PV. Car aujourd'hui, il y a des gens, Inch'Allah Ta'ala, qui m'attendent. Naam, il y a des gens qui m'attendent. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, la nuit, Inch'Allah, Abu Maryam, la nuit. La nuit vers 22h, etc. Naam. Inch'Allah.